C'est le week pass de l'été. On revient sur notre format, celui sur lequel on se sent comme des poissons dans l'eau. Je suis ravi d'être avec toi.
J'aimerais bien être un poisson dans l'eau. Ah, oui. J'ai chaud, Robin, j'en ai marre. Pardon.
Oui, bah, on est ravi quand même d'être là en plein été.
Oui.
Sans doute pour la dernière fois, on va pas se mentir, c'est l'émission bilan. De toute façon, on va parler de tout. On va parler de playoffs, de free agency, de draft. On va revenir sur les deux derniers mois NBA. On a voulu faire un point avant de partir en vacances, même si on part pas en vacances forcément tout de suite.
Oui, on voulait retrouver notre petit Team League Pass et notre nos habitudes finalement. Puis ça me manquait. On a fait des hors-séries, on va dire. Et là, on voulait de nouveau une dernière fois pour les vacances faire un petit tour un peu. Il s'est passé pas mal de choses depuis le dernier League Pass de toute façon.
C'est ça.
Et on a plein de petites séquences, sujets, tout ça. C'est ça, Robin ?
Ouais, ouais. Et puis c'est une belle dernière avant de revenir l'année prochaine. Donc
on revient l'année prochaine ? Ils t'ont dit c'est bon ? On revient ?
J'espère. Si ça vous plaît.
Moi, je sais pas. Hein, je...
Si ça vous plaît, dites-le nous en commentaire. Et si
ouais,
on revient,
alors, c'est important parce que s'il n'y a pas au moins 1000 commentaires pour dire s'il vous plaît laissez-les revenir, on est dans la merde. Hein.
Et puis si on revient, dites-nous évidemment ce qui vous a plu dans cette première saison, ce que vous amélioriez. On aime bien les conseils.
L'été est un peu laboratoire.
C'est ça.
Et on pourrait, s'il y a des effectivement, on va réfléchir un tout petit peu à améliorer ce qui est améliorable. Donc profitez-en.
N'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, voilà, on est ravis de revenir. Et avant de se lancer, je propose une question qu'on a distillée quelques fois pendant la saison. Simon. En cet été très chaud, qu'est-ce qu'on ne mange pas ?
Bah rien, on mange rien. On mange des tomates et des pastèques.
Ouais.
Avec de la feta ou de la mozza.
Ok.
Sur le bon fromage avec le bon fruit ou truc.
Ouais, moi je suis plus team feta que mozza.
Alors pastèque feta, tomate mozza.
Les deux feta.
Et pas d'huile de balsamique. Je sais pas qui met ça, c'est non. Éventuellement des feuilles de basilic, éventuellement, mais pas d'huile de balsamique dans la tomate mozza. On n'est pas. Ça c'est les.
Moi j'en mets, je crois. Hein.
Bah ouais.
Dans la tomate feta.
Ça c'est pour moi, c'est les gens qui. Tu sais, c'est les... J'allais être horrible, mais
vas-y.
C'est les pizzerias non tenues par des Italiens.
Ok.
La caprese, elle arrive, il y a de la balsamique. Tu sais que le vendeur, il est peut-être pas très loin de l'Italie, mais il est pas italien.
Et les pizzas américaines avec les grosses croûtes et tout, c'est bon aussi. Hein, je suis désolé.
Après non, en plus je dis ça, puis parfois en Italie ils mettent de l'huile balsamique. C'est moi qui aime pas ça. Vraiment pas sur la tomate mozza. Par contre, qu'est-ce qu'on mange pas ? Bah, on mange pas de cassoulet, on évite les gars. Kebab, on évite. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous avez peut-être encore les boyaux pour les voilà. On mange pas de fromage fondu là.
Non.
Le fromage, il est frais, il sort du frigo.
On va éviter.
Ouais.
Et moi, je peux te dire qu'on mange pas de banana bread.
Ah ouais ? T'es pas de cette team ?
Si, mais en fait, petit big up à ma coloc et à son mec, que j'aime très fort, mais qui sont les seuls du monde à mettre du beurre de cacahuète.
Dans le banana bread ?
Ouais, c'est beurre de cacahuète ? Oui, c'est
ouais.
Ouais, c'est ça. Dans le banana bread, ce qui m'a valu une belle nuit d'urgence. On l'a préparé là. Là, c'est pour ça que je voulais le dire. J'ai préparé l'émission un peu depuis les urgences et je voulais passer un petit big up au personnel hospitalier qui nous écoute, aux gens qui sont à l'hôpital parce que.
Ah, donc c'est ça, sa surprise.
Ma petite surprise. Parce que j'ai passé 12 heures et ça m'a
Robin
rappelé.
Robin m'a laissé un vocal encore plus énigmatique. C'est pas du tout un projet pour séduire LeBron, son vocal.
Ah non.
Et je comprenais pas, il me disait, je t'expliquerai, mais c'était galère, mais en fait ça va, mais en fait c'est rigolo. Et tu t'es dit, moi, ça sentait de l'accident débile. Enfin, l'accident dont on peut rire.
Et bah, c'est ça. Beurre de cacahuète, 12 heures à l'hôpital et en fait, une nuit à l'hôpital.
12 heures à l'hôpital ?
Ouais.
Non, mais t'es intolérant au beurre de cacahuète.
Ah oui. Bah oui, tu voulais me tuer maintenant, il y aura plein de personnes qui sauront comment faire.
Ouais, mais t'es pas mort.
Je suis pas mort.
C'était dommage que mourir pour.
Non, mais justement, je voulais passer ce petit message parce qu'en fait, c'est bête, mais passer 12 heures à l'hôpital, ça te rappelle que les infirmiers, vous méritez tout le meilleur salaire du monde. On vous aime très fort. Les gens qui sont bloqués à l'hôpital pour une raison ou une autre, énorme force à vous. On est fort avec vous. Moi, ça s'est très bien passé, évidemment. Hein, tout va bien. Mais voilà, je voulais passer un petit big up comme ça au personnel hospitalier parce que c'est une immense galère, surtout comme ça en plein été et tout. Donc, grosse force à vous. On pense fort à vous et sur une note un peu plus joyeuse, on va pouvoir enchaîner sur la news de l'été. Et voilà, j'avais dit à mes collègues petit bisou.
Non, mais tu fais bien. Et puis tu parlais, effectivement, ils sont par rapport à leur utilité, leur machin dans cette société, ils sont rémunérés. Enfin, c'est indécent.
Ouais.
Au point où ça donne presque raison. Enfin, bref. Tu sais, ce fameux théorème de en fait, plus t'es payé dans le système, moins t'es utile, et plus t'es vraiment utile, moins t'es payé. Je sais pas, mais quand tu vas dans le service hospitalier et que tu sais combien ils gagnent et que tu vois comment on est des merdes, hein, sans eux. Et puis on est vulnérable, c'est pas le
mot. Ouais, aussi vulnérable.
Mourant, non ?
Bah, en tout cas, un peu.
Mourable, ça n'existe pas.
Oui, bah.
Mortel.
Pas immortel.
Ouais,
c'est ça. Les news de la semaine.
Oui,
je
pardon.
Me permets.
Oui, je suis là. Je suis là, Robin. T'inquiète pas. En news, alors parce qu'il y en a quand même pas mal.
Ouais, et puis on peut commencer avec un autre gars qui est un petit peu parfois habitué des hôpitaux. C'est pas bien, mais le transfert de Kawhi Leonard n'est pas officiel. depuis hier
ça,
soir.
C'est tout chaud.
C'est la news très fraîche, ouais. Bastien qui a fait un très bon tweet ce matin pour tout expliquer. Mais en gros, vous aviez vu passer, je pense, cette affaire avec Aspiration qui expliquait que Kawhi Leonard avait signé un contrat avec eux pour leur faire de la pub, ce qu'il avait sur le papier jamais fait. Il y a eu une enquête de la NBA qui n'est pas terminée. Et justement, ils ont prévenu les Raptors que si jamais le transfert était validé, ce sera à eux d'en payer les conséquences. Donc, ils attendent la fin de l'enquête qui devrait arriver dans quelques semaines, selon un communiqué de la NBA. Mais du coup, on ne sait toujours pas où va aller cette histoire de contrat de Kawhi et donc de transfert. Voilà, ils attendent la fin de l'enquête. C'est un petit choc quand même, parce qu'on en avait beaucoup parlé, notamment nous trois avec Alex pendant le live. On était déjà prêts à cette situation. Mais...
Alors, précision, c'est en pause, c'est pas du tout annulé.
Oui.
Shams d'ailleurs sous-entendait que ça pourrait aller relativement vite, enfin que ça pourrait pousser justement les choses à aller vite et tout, parce que quand même, ce qui est fondamentalement injuste, c'est le côté, s'il est transféré aux Raptors, les Raptors vous prenez la galère avec, alors que techniquement ils ne sont absolument pour rien.
Ouais, ça aurait fait, ouais.
Donc du coup, je trouve, moi j'interprète ça comme ça, ça veut dire, il faut, ok, vous avez fait le transfert, mais il faut qu'on règle ce problème d'une façon ou d'une autre, mais qu'on y mette un point final. Ce qui pousse sans doute vers le fait que les Clippers risquent d'être sanctionnés. Kawhi, j'ai l'impression, moins, ou alors une amende, un truc comme ça et tout. Le transfert va se faire. Bah, en tout cas, moi, c'est le scénario que là, je vois. Et puis, bah, on va gentiment déblayer tout ça, foutre tout ça sous le tapis, et puis voilà.
Bah, on espère, en tout cas, parce qu'on va y revenir, mais on était très excités par ce transfert, par cette nouvelle équipe, et je sais que même toi, t'aimais bien les potentiels néo-Clippers. Donc, on espère que ça va vite se régler. Mais c'est vrai que c'était la news très, très chaude. Et pendant qu'on est à Toronto, on peut peut-être parler de Kyle Lowry, parce que Kawhi Leonard était là pour la conférence de presse d'adieu de Kyle Lowry.
Assez détendu, avec... Moi, j'ai bien aimé son look en plus. Ouais. Chemise ouverte, dread. Rien à foutre. La nonchalance, pardon.
L'été.
La nonchalance, l'été. L'été, Kawhi, tout ça. Voilà. Et puis, Kyle Lowry, oui, bah, c'est ce que. Ça ne peut paraître que symbolique, mais c'est quand même sympa qu'il puisse retourner comme ça pour officiellement prendre sa retraite en tant que Raptor. Et puis, ils en ont remis une couche de bah, c'est toi le plus grand Raptor de tous les temps, parce que tu concilies longévité à la démarre et titre à la Kawhi. Donc, t'es un peu cette espèce de meilleur des deux mondes. Voilà, donc tout ça, c'est des petits tours de nos amis les Dinos.
Ouais, et puis il avait dit qu'il a tenu sa promesse qu'il prendrait sa retraite en tant que Raptors. Ils ont déjà annoncé qu'il retirerait son maillot l'année prochaine. On en parlera sans doute pendant un week pass. Voilà,
c'est plus que mérité.
Ouais, un bel hommage pour Kyle Lowry, quand même. Plus de 20 saisons en NBA, 40 ans. Félicitations,
ouais,
monsieur.
Moi, j'avoue, c'est un peu de mauvaise langue, mais pour ce qu'il a fait, ouais, quoi qu'à Miami, c'était pas si mal et tout. Pour ce qu'il a fait depuis qu'il est plus aux Raptors, tu te dis, c'est dommage. Il y a un monde où il claquait ses 20 saisons aux Raptors. Ouais. Enfin, pas phase en saison, puisque je dis des bêtises, puisqu'avant il était à Houston.
Oui.
En fait, il est pas drafté par Toronto, mais tu vois, tu m'avais compris.
Mais du coup, c'est bien, il a terminé.
Ouais.
Sortons un tout petit peu de la NBA, on a eu deux matchs de l'équipe de France qui sont un peu passés sous les radars, avec notamment cette Coupe du Monde de foot.
Donc,
qui emporte tout.
Robin, si j'ai bien compris, c'est des qualifs pour la Coupe du Monde.
C'est ça, c'était la fin,
c'est le début, ouais.
La fin d'un premier groupe.
Ouais.
Où la France a terminé en tête devant la Finlande. Et en fait, les trois premiers de ce groupe-là sont reversés dans un second groupe avec trois autres équipes qui ont terminé première d'un autre groupe, donc
ouais.
Les six meilleurs.
Ouais.
Et en fait, tu gardes tes résultats du groupe d'avant, donc
ouais.
nos cinq victoires pour une défaite qu'on a fait dans ce premier groupe. Et là, à nouveau, tu vas refaire six matchs contre les trois équipes autres que tu n'as pas encore joué.
Mmh.
Et les trois premières de ce nouveau groupe sont en Coupe du Monde.
D'accord.
Et nous, on est bien, on a un avantage parce qu'on est en cinq victoires et une défaite. Donc les deux autres de nos groupes ont fait quatre victoires, deux défaites, la Finlande, et trois victoires, trois défaites.
Okay.
Mais les trois autres.
Ça compte quand même.
Ouais, et les trois autres, surtout que les trois autres qui sortent de l'autre groupe avec Slovénie, Hongrie et j'oublie quelqu'un, ont tous fait trois victoires, trois défaites.
D'accord.
Donc en fait, on a déjà largement de l'avance.
D'accord.
Il va falloir encore
en plus,
gagner,
si
mais on est proche de la Coupe du Monde.
Si l'équipe de foot la gagne, la Coupe du Monde, les basketteurs sont qualifiés d'office.
Je pense qu'on pourrait faire cette règle. C'est
de,
pas dans.
Tu vois, d'équivalence.
Et si vous a montré Maxime Reynaud, c'est qu'il il était notamment dans cette équipe qui a gagné du coup contre la Belgique puis contre la Finlande et a fait une belle première.
Bah, une belle impression sur les deux matchs, surtout le deuxième match. Et du coup, au point où c'est lui d'ailleurs qui a commencé à parler de ça en conférence de presse, enfin bref, après match, ses propos. Mais le secteur intérieur de la France, sur le papier, tu te dis que wow, c'est tout en haut. Je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est podium, je pense, j'ai l'impression, c'est un basket.
Ouais, bah je pense que c'est le meilleur, moi. Je peux aller, enfin en vrai, tu rajoutes Moussa Diabaté, Gershon Yabouzé, Victor Wembanyama, Rudy Gobert. Même les États-Unis, là, en termes de pivot,
ouais.
ça se débat en tout cas.
Non, mais d'ici 2 ans, ça peut, t'as quand même là, là on est dans une réalité où ouais, Duren a fait des mauvais plans, mais par exemple, si ça se trouve dans 2 ans, c'est un monstre. Bon, mais oui, voilà, il y a, on est tout là-haut. Et puis Maxime, pour son cas particulier, a fait vraiment à montrer, bah toujours en fait, c'est un peu sa recette, mais ça marche bien. Beaucoup d'activités offensives, très bien se montrer, très bien flasher et tout de suite aller vite, poser l'écran, rouler, boum, boum, c'est par exemple flotteur, boum, trouver la passe, mais pas perdre de temps. Et en défense, dans un système FIBA, alors oui, ce sera jamais Dikembe Mutombo, hein, ça, voilà, ou même Bama Adebayo qui voulait, mais sur un jeu FIBA, alors il y a eu des moments où par exemple lui et Nadir Ifi ont été un peu exposés en pick and roll parce que c'est deux mauvais défenseurs, mais sur d'autres choses, les couvertures et puis surtout la communication, ben en fait il est utile en défense, non, c'est son rendu utile.
Il a un jeu qui est très adapté à la FIBA, on l'a vu directement, et il a fait du bien, notamment il y a eu aussi des belles performances d'Eli Okobo, il me semble, de Sylvain Francisco. La France en est sortie et a pris un grand. Enfin, ils ont déjà presque un pied en Coupe du Monde.
Les fameux 8 orteils.
Ouais, bon, 8 orteils, je sais pas, faut encore gagner quelques matchs, mais ils sont très bien partis. Et donc, c'était beau à voir. Et pendant qu'on parle d'intérêt français, je te propose de parler de Gershon Yabusele.
Bah, tout à fait.
Qui rejoint le Panathinaikos.
Fini la NBA, enfin, en tout cas pour le moment.
Ouais, un contrat de 3 ans,
Athènes, il va au Pana. Il a pris la sécurité, la longueur, la sécurité financière, pardon, la longueur du contrat. Parce qu'apparemment, il y avait peut-être moyen d'avoir des petits contrats encore en NBA, des petites choses. Mais il a préféré faire ça. Bah écoute, moi, je trouve ça quand même dommage d'un côté, mais très cool de l'autre. Parce que le Pana, tout ça, retrouver l'Euroleague, Gershon en Euroleague, c'est voilà. La NBA, on verra s'il y retourne ou non, pas sûr. Ça restera assez mitigé. Je crois que le fait d'avoir choisi les Knicks et le Denver là.
Ouais, ça
moi je pensais qu'il retournera à Denver puisqu'il le voulait vraiment et que j'ai l'impression qu'il y avait quand même encore un peu des spots. Ils ont pris Marvin Bagley, tu vois. Ça. Bon, ça s'est pas fait.
On va rendre à César ce qui appartient à César. C'est une info, il me semble, de Tom Compaero, dont on a déjà parlé dans le Week Pass, qui a dit qu'en fait il a reçu une offre. Gershon Yabusele est venu dans NBA et c'était pas Denver, c'était Minnesota. Avant que Minnesota signe Trey Lyles. Donc sur ses postes 4-5, il y avait de la place. C'est
Trey Lyles qui était lui-même en Euroleague au Real.
Ouais, c'est ça. Mais c'était un contrat en fait d'un an, plus ou moins.
C'est une biche, quoi.
Ouais, pas, peut-être pas au minimum, mais pas très loin. Alors que bah, de l'autre côté, évidemment. On peut le comprendre, c'est 3 ans, il y avait autant d'argent par saison, il me semble, ou pas loin, et t'as 3 ans, un bien plus gros rôle, parce que t'es titulaire, tu vis à Athènes au lieu de vivre à Minneapolis, bah, ça se discute, on va le dire. Et non, là, il a fait ce choix qu'on peut comprendre. On aurait bien aimé quand même le voir dans Séoul.
Il
je pense
trouve
que
un
ça aurait
un
été,
club vert avec un trèfle comme celui qu'il a drafté en NBA.
C'est beau, c'est
et
vrai.
Et il va retrouver les derbies ou les matchs sont avec Evan, là, avec l'Olympiakos et tout.
Bah, surtout qu'apparemment, ça se jouait entre ces deux clubs grecs hein, pour Gershon. Il aurait pu signer à l'Olympiakos, mais il a choisi plutôt de rejoindre Mathias Lessor dans la raquette du Pana. Et ouais, non, ça va être très intéressant à suivre les derbies grecs la saison prochaine. Ce serait cool. Différents tours, je sais pas si ce sera faisable, mais ce sera à suivre, vraiment.
C'est pas une mauvaise idée qu'aller voir du basket à Athènes, moi je suis chaud. Hein.
Ouais.
Il y a des choses qu'il y a l'une des meilleures bouffes du basket. On y va demain, Robin, si tu veux. Le Week Pass, on va passer le Week Pass comment ça s'appelle, Laurie ? J'allais dire en cyrillique, c'est du cyrillique ? Je sais jamais. Ouais, pardon, faut pas faire ça en live.
On peut se régaler. On s'était dit qu'on ferait un mini tour des nouveaux coachs. On a eu des petites infos comme quoi, par exemple, Billy Donovan serait maintenant le premier assistant de Mitch Johnson aux Spurs.
Tu as une capacité à parler de Billy Donovan à chaque émission, c'est remarquable.
c'est pas toujours un plaisir, mais là, ça peut être un poste qui lui correspond bien.
Oui, c'est l'alphabet cyrillique, comme les Russes. Okay.
Notamment pour l'attaque des Spurs, ça peut être sympa. On voit les premiers pas de Thiago Splitter avec les Bulls qui coach même la Summer League. On a vu Sweeney aussi avec Orlando, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu en as d'autres en tête de ces nouveaux coachs qui ont déjà montré quelques pieds?
Je sens que tu as fait le tour, Splitter. Hein. Je suis sûr qu'on en oublie.
Oui, on a oublié. Mika Nori qui avec les Blazers. Je sais pas s'il coach déjà la Summer League. Je me fais gaffe.
C'est pas Dallas aussi? Dallas, ils ont
Dusty May.
Dustin May. Il y a Dallas qui a changé de coach. Je fais le tour vite fait dans la tête. Raptors. On aurait dû vraiment se les lister, Robin, ça j'avoue, mais je réfléchis. Steve Karma, là j'ai une.
Non, mais passons sur quelque chose qu'on
Nick Nurse, toujours là, Mike Brown, j'en dis. Non, mais ça nous a permis, écoute, Joe Mazzulla, ça nous permet de faire le tour. Donc, Splitter aux Bulls, tu l'as dit. Atkinson, a priori, au CAF, ça bouge pas. Bickerstaff, ça bouge pas. Carlisle à Indiana.
Ça bouge pas.
Ouais. Tac, tac, tac. Tyler Jenkins, Quinn Snyder, Charles Lee, Eric Spoelstra, Swen Sinney, Brian Keefe au Wizard.
Ça bouge pas.
J'allais dire c'est nouveau, mais c'est pas du tout nouveau.
Non.
Le fils Adelman, Chris Finch, Daigneau, c'est vacant à Portland. Du coup, là,
c'est Mika Nori.
Mais c'est Mika Nori. Ouais, c'est Wikipédia est en retard. Will Hardy, Steve Kerr, Tyronn Lue, JJ Redick, Jordan Love, Christie,
on a fait le tour.
On a fait le tour, Isalo, Jamal Mosley et Mitch Johnson, donc accompagné de... En nouvel assistant principal ?
De Billy Donovan. Si on
non, je sais, c'était pour refaire la blague, te faire redire Billy Donovan.
Okay. Passons à la Summer League qui a commencé cette nuit.
Le gros duel.
C'est jusqu'au 19. C'est du 9 au 19 avec.
La vraie Summer League, vraiment, il y a eu le. C'était Cali Classic ?
Ouais, c'était.
Quelques petits matchs, là, quelques petits amuse-bouches.
Ouais. C'était à Salt Lake City aussi, il me semble. Là, c'est à Las Vegas. On a vu dès le premier soir le premier duel entre AJ DiBonsa et Darren Peterson. Légèrement, celui-là, gagné par notre ami Jedi Bensa, qui a mis 27 points, record égalé pour un premier choix de draft avec, mince, ça vient de me glisser, c'était qui a mis 27 points ?
Je l'ai vu
passer. Ça a battu John Wall. John Wall était en dessous, c'est Blake Griffin, pardon. Blake Griffin qui a mis 27 points. Une belle performance.
Revenu, tu vois,
ouais. Contre Peterson qui n'a pas montré de mauvaise chose non plus, 24 points avec pas mal de pertes de balles, une mauvaise adresse au shoot. Mais Peterson qui avait été très impressionnant, lui, du côté de Salt Lake City déjà. Toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette première nuit de Summer League et même aussi de la première.
C'est... Alors déjà que le truc des lancers, j'ai pas encore d'avis tranché. Parce qu'il faut rappeler que maintenant, quand il y a faute, tu as un lancer. Et sur ce lancer, bah, soit tu valides les 2 points ou les 3 points. Soit tu les valides pas du tout, voit ça comme ça.
T'as pas trop d'avis ?
Moi, j'arrive pas. En fait, au début, je pensais que j'aimerais pas parce que c'est trop machin. Et en fait, je me dis c'est pas si mal, surtout sur des matchs Summer League, ça accélère le rythme. Il y a un côté un peu fatalement, le pourcentage de lancer étant plus élevé, bah tu valides un peu plus de points. Mais du coup, je trouve qu'il y a une vraie sanction quand tu mets pas ton lancer. Donc, tu vois ? Donc t'en mets plus. Je sais pas. Toi, c'est quoi ton avis ?
Moi, mon avis, c'est qu'il faut trouver plein de solutions pour accélérer le jeu, ouais. Mais que celle-là, je déteste. Pour le coup, pour
d'accord,
moi, c'est
carrément.
Un truc de.
Ouais. Non, c'est mais c'est un peu un gimmick
de
jeu vidéo. Quoi.
Ouais. T'as besoin des 2-3 lancers très chauds dans les moments de m'entendu. Je sais que pour l'instant, là, dans les deux dernières minutes, ça retrouve la forme originelle, donc ils y ont pensé. Mais quand même, je trouve que ça désavantage trop de joueurs, ça en avantage
et puis,
trop d'autres.
Moi, je t'avoue qu'en fin de match, si j'aime pas le transfert de t'as 3 points, il y a faute. Ça devient un seul lancer. En fait, ce lancer vaut 3 points. Ouais. C'est un peu bizarre. Ça casse un peu la matrice. Donc voilà. En Summer League, on s'en fout.
Oui, franchement. En Summer League, ça va.
Après, en vrac, très impressionné. Moi, c'était les débuts. On les avait tous vus, nos rookies, globalement, là. De Darius Sakuf à Keaton Wagler, à même Peterson, à Carlos Boozer, machin. C'était les débuts hier de DiBonsa. Dans ce cadre-là, en tout cas. Eh ben la vache, il est quand même impressionnant.
Ouais.
Il est quand même sacrément impressionnant, c'est-à-dire que sa taille, là on voit tout de suite qu'il est immense pour un mec qui porte la balle, qui joue 3 en fait, et qui va sur le 1 contre 1, amener tout de suite, je passe l'épaule, je machin, dribble entre les jambes et j'avance et personne ne va m'arrêter, et à la fin il y a soit dunk, soit faute, soit... En plus il a l'art de bien jouer le contact, les petits mouvements de tête, les trucs et tout, mais pour faire tomber les lancers. Il y a déjà des shoots, alors il se... notamment un où d'ailleurs il le rate, mais il passe bien Peterson, il revient là, il se retourne et... Mais c'est, il met pas tout et tout, mais par contre, il prend facilement des shoots très difficiles, des trucs où il enchaîne de dribbles. Voilà. Alors, les shoots sont pas forcément dedans, mais par contre, la faculté à se les créer, la facilité ça, quand ça va tomber, moi, je suis très bluffé, mais c'est qu'un échantillon de match. Et puis, toujours, je sais que tu l'aimes beaucoup, bah, Peterson, mais on a répondu. Hein, vraiment, gros duel. Oh, il a montré des. Voilà.
Oui. Bah, hier, ça va, il a montré des trucs.
Il a pas fait un énorme match et tu te vois quand même que si c'est ça, un match où Peterson c'est un peu tranquille,
ça à 24 points, on n'est pas très satisfait. Mais ce qu'il avait montré la semaine précédente, du coup, du côté de Salt Lake City, ouais, c'était, je trouvais ça assez hallucinant dans la manière de gérer son propre tempo, de trouver ses propres shoots, puis d'en mettre des extrêmement compliqués.
Ouais, et facilement, ouais, c'est ça. Il met des...
La mentalité, j'aime trop. Non,
plus je le vois, plus moi j'avoue que le SJ, un remix, hein, mais il y a pas mal d'SJ quand même en fait.
Il y a quelque chose de très, très fort scoreur en tout cas.
Ouais. Puis à la fois smooth mais méchant quoi. Je voudrais trouver un mot. Smoothinator. Un truc qui va pas ensemble. T'es smooth mais t'es Terminator, tu vois. Il a un truc comme ça, comme SJ quoi. Dans même l'attitude, il est calme. Hein.
Ouais,
il est calme, il est posé, tout ça et tout. Voilà.
Non, dans cette première nuit, moi j'ai bien aimé le duel d'anciens de Michigan entre Maurice Johnson et Axel Lendeborg qui se sont bien répondu.
C'est une machine.
Ouais, il était très impressionnant hier. On sait pourquoi Destimé l'a voulu avec lui au Mavs. Évidemment, c'est qu'un premier match de Summer League. Hein, c'est même pas une conclusion hâtive.
Niveau énergie,
mais j'ai bien aimé ce match.
Lui est flag là, niveau énergie.
T'as un autre petit chouchou là qui s'est détaché.
Bah, j'ai un chouchou. Forcément, moi, je suis Team Darius Sakuf à fond. Alors, il arrose. Hein.
Ouais.
Bon, je dis pas, il l'aimait pas. Mais la variété de enchaînement drip step là. Putain, tu peux avoir. Cross dans un centre, enfin tweed entre les jambes, revenir jab step pour revenir par exemple sur la main forte. Tu peux avoir le même move, mais en fait easy et shoot. Tu peux avoir le même move et d'un coup Jabstep de l'autre côté. Tu peux avoir ça, pareil. En fait, finalement, il avance, il sort le flotteur à pied opposé. Genre, tu sais, il repose le pied droit et en fait, le flotteur sort tout de suite. Donc, les mecs sont décalés. Par contre, le côté joueur de cabine téléphonique, là, mais un peu comme Branson, franchement. Alors, il manque encore le fait d'introduire un peu du. C'est pas vraiment du dos au panier, mais du deux tiers, je dirais. Parce que lui, il est que de face pour l'instant, et keuf. Mais alors, la variété. Il n'y a pas un shoot qui ressemble à l'autre.
C'est beau de te voir avec les yeux de l'amour comme ça.
Ouais, ouais, ouais. Bah, je suis... Et puis, j'aime bien son attitude parce que globalement, je le trouve même sévère avec lui-même. Genre, ouais, le mec fait 6 sur 20. Il en fait un peu des cassettes. Genre, ouais, j'ai joué comme une merde, j'ai machin et tout. Ça va, tu vois, tu rates des shoots. Et surtout, un vrai feeling pour le jeu. Je sais pas si t'as remarqué.
Ah, si, bah, il est fort. Hein. Il est très, très, très
et
fort.
Et en fait, il y a un vrai meneur là-dedans, dans cette espèce d'Iverson un peu dans le style. Hein. Alors Iverson aussi, mais finalement à jouer deux. Et Keuf, tu vois que moi j'étais bluffé par 2-3 passes sur les shooters et tout, qui fait très facilement. Bon jeu de pick and roll aussi. Ça, j'ai hâte de voir avec soit Domas, soit Max, etc. Et tout. Mais ça, je pense que dès que t'as un pivot correct là,
ouais, ça va rouler.
C'est le genre de meneur qui fait que le pivot il est content, je pense. Il y a une belle collection d'ailleurs avec Dylan, avec Colwell et tout. Bref, voilà, je vais pas faire un quart d'heure sur Darius Akeuf, mais je suis ça avec attention. Donc c'est même pas un coup de cœur, c'est genre j'ai l'impression que je suis obligé de suivre. Non, sinon. Bah, Michael Brown toujours, même si on en a vu assez peu, mais Michael Brown, il y a un truc de. Il y a une évidence de vista, de leader, là, de meneur, de. On dirait comme un vrai numéro 10, tu vois, en foot. Non, mais il fait penser à ta Liberton, un genre de mec.
Il y a des moves très. Enfin, il y a un move qui a fait le tour des réseaux sociaux, très impressionnant, avec une espèce de spin move et derrière, décale la balle dans un corner.
Les mecs, ils sont foutus de la musique classique, ils ont fait Art of Basketball, l'autre, c'est Vivaldi, quoi. Ouais, voilà.
Non, on a envie d'en voir plus, la Trick
19 minutes, il me semble. Ouais. Cameron Carr, de ce que j'ai vu, bah ouais, mais ouais. Beau avoir joué, il est, tu vois, enfin vraiment beau avoir joué en plus, je trouve.
Même la Baron Phelan, dans ceux qui ont glissé la draft, il a fait un bon premier match, donc ils ont montré qu'ils ont la dalle. On peut finir avec un petit point francophone. Il y a Noah Penda qui a bien dominé son premier match avec 23 points, et franchement, physiquement, on voit qu'il joue avec des enfants.
23 points, je crois.
Ça, je l'ai pas en tête, mais physiquement, c'était une domination assez incroyable. Et ce qui est cool, c'est qu'on voit que dans la communication du Magic, ils croient beaucoup en lui, ils le mettent en avant dans chaque poste autour de la Summer League, et franchement on voit qu'il a déjà un niveau supérieur quoi à celui qu'il faut pour jouer l'été comme ça. Et moi j'ai adoré le match de Johan Berenger parce que je sais pas si vous avez suivi, c'est un truc de bon geek, mais ils le font jouer poste 4 sur cette Summer League pour développer un petit peu plus ses skills. Il joue à côté de l'autre rookie l'année dernière, Rocco Zikarski.
Oui.
Mais du coup il joue poste 4 et franchement il a pris ce rôle à bras le corps parce qu'il a mis 18 points, 12 rebonds, 4 contre en faisant le travail en 23 minutes, quelque chose comme ça. Mais surtout, tu vois des actions où justement il reçoit la balle un petit peu poste haut et il dribble, il va chercher ses points près de l'arceau. L'année dernière, on l'a beaucoup vu dans un rôle de rim runner. Mm-hmm. Là, tu sens que c'est pas complètement forcément toujours naturel, mais il a été chercher quand même bien 6-8 points comme ça. On sent qu'il y a des bases qui progressent à vitesse grand V. On sait que pour un sophomore, il est très jeune, qu'il a commencé le basket il y a pas longtemps, que les Wolves vont avoir besoin de sa présence à l'intérieur. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant pour l'instant, ce petit test de Berenger poste 4.
Yes. À suivre ce soir. Donc, ouais. Ceux qui nous regardent. Mais les débuts de Noah Sengue, normalement, c'est programmé dans la nuit de vendredi à samedi. Je venais de vérifier.
Ouais, avec Caleb Wilson, c'est contre Cameron Boozer, il me semble.
Ça, tu vas être devant. Peut-être pas en live, mais tu vas.
Ouais,
tu
je vais me faire le replay, je pense. Ouais, mais oui.
On en reparlera de tout ça. Alors, peut-être pas forcément dans une place, mais belle cuvée.
Ouais.
Et un peu plus tard dans l'émission, on vous verrez, mais on retrouvera une manière de reparler un peu notamment du top de ces rookies.
Ouais, on trouvera bien. Mais oui, là je viens de vous parler du contingent français de NBA. J'ai une stat pour toi, la stat de la semaine, c'était 6. Avec 6 françaises là dans le top.
Je me suis spoilé la stat.
Dans le top 50 ESPN des meilleures joueuses WNBA. Ouais. On a notamment Gab Williams qui est titulaire. Pour la première fois, c'est une française est titulaire du All-Star Game WNBA, ouais. Qui sont classés à la 26e position. Un peu plus loin, on a Carla Leite qui devient une superstar à Portland, 31e position. Si vous n'avez pas vu le vlog de Tim et Ben avec Carla Leite, allez-y. C'est ma vidéo préférée, je pense, de presque de Trash Talk cette année. Ils ont fait un taf super et surtout Carla Leite, c'est un rayon de soleil. Mais elle a fait des choses incroyables avec Portland. Janelle Salin, 37e position, qui a fait un super match il y a deux soirs, il me semble. Pauline Assier, 38e, qui fait des débuts magnifiques au Liberty. Dominique Malanga, qui est All-Star aussi pour sa deuxième saison, 39e position. Et enfin, il me semble que c'est Marine Johannes, aussi du New York Liberty, en 41e position. Les Françaises brillent en WNBA et ça fait plaisir.
Je pense pas dire de bêtises en disant que c'est la nationalité de la mieux représentée hors américaine, j'imagine. On ne sait pas, mais je m'avance un peu.
Il n'a pas regardé du tout, j'avoue.
On a la confiance en ce moment, on gagne tout, on met des joueurs au LMB, enfin bref.
Hein, de là,
on met
important.
Des joueurs et des joueuses titulaires du All-Star Game.
C'était important pour moi de souligner ces très bons débuts de saison des Françaises. Ça va durer... jusqu'à bien mi-juillet, fin juillet, il me semble, la Summer League. Donc, la Summer League, pas du tout, la WNBA. Donc, n'hésitez pas à suivre ça. Tous les soirs, il y a une nouvelle française qui fait une performance de dingue. Ça fait vachement plaisir, tout simplement. On va pouvoir passer doucement à l'image de la semaine. Il me semble que c'est Simon qui a quelque chose à nous montrer. Je ne sais pas ce que c'est, pour être honnête.
Faut que je
regarde ailleurs.
Je peux faire de technique. Non, pas forcément pour l'instant. Je vais déjà ici. Je vais aller chercher quelque chose en fait sur les internets. Tu te rappelles, Robin, le moment où on se réveille, on va sur Twitter et on se dit tiens, l'IA qui déconne, il y a Rich Paul qui fait des PowerPoint et en fait on se rend compte que c'est vrai. Tu vois de quoi je parle ?
Je vois de quoi tu parles.
Avec le fameux, ce qui est vite devenu le tableau blanc, le whiteboard de Rich Paul.
Ouais.
Je vais vous le. On va se mettre un petit coup de média, on va vite retomber dessus. Pardon, j'aurais dû mieux préparer. J'ai préparé ça, mais pas le deuxième. Ah voilà, par exemple ça là.
Ouais.
Vous voyez, donc je scoreboard. Voilà, je parle de ça.
Ouais.
Moi, tu sais que j'adore ce genre de choses. On a tous commencé à regarder. Ici, c'est les Warriors. C'est vrai que là, il avait fait les 5 équipes un peu.
Moi, j'aime bien le petit moins à côté de New Garland. Il me fait rire.
Oui, ça fait rire. La petite étoile aussi, Maxi. Les réseaux m'ont expliqué que c'est parce qu'il est candidat. Client clutch.
Clutch, ouais.
Sans doute.
Ouais, bien sûr.
Il y a des micro-détails comme ça, ok.
Ouais.
Mais on voit bien. Là, on voit aussi, Robin, tu vois la baguette. Ça, c'est les petits détails, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Mais on voit que c'est un paperboard. D'accord. Je sais pas le mot, un tableau.
Je sais pas où tu m'emmènes.
Si, en fait, il y a une feuille, ça se tourne. Et moi, en exclusivité, là, je me remets. En exclusivité, moi, j'ai appelé Rich Paul. Et je lui ai dit, mais attends, tu nous as eu parce qu'on voit bien qu'il y a une deuxième feuille. Et j'ai récupéré le deuxième partie du tableau que j'ai vraiment récupéré. Et donc, je t'invite à. Alors, c'est un document exclusif, je vais le passer, je vais le numériser. Et voilà, on va le zoomer un petit peu. Et ça, c'était la deuxième feuille, mon petit Robin. La suite. Et donc, on voit ici qu'on avait Ekeuf, Zach, Kigan et Max.
Ouais, bah ça allait en pole position, apparemment.
Voilà, c'était très haut. C'était la deuxième. Ici, on a du Darius avec la petite étoile, tu vois.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que tu vois, Bénédicte ?
Bénédicte, ouais, BI, Roi.
Rui,
pardon. Non, bon,
il savait déjà qu'à Chimoura, elle est débarquée, il sait
d'accord.
tout, Rich Paul. Et tu vois, là, il y a des petits détails derrière. Même ville, les arbres.
Balmer
stuff.
J'aime bien, ok.
On voit ici, qui tu vois là ?
C'est la. Kaman Book.
Book.
Villain, bien sûr, il adore.
Et en mini plus. Villain.
Ouais, bien sûr, il.
Ah, il faut Kaman décrypter Magic. Un peu. Jalen Green, ouais, Kaman.
Ouais.
Alors on verra. Les plus avertis diront qu'il n'y a pas Mark Williams. Est-ce que ça veut dire quelque chose sur l'avenir de Mark
peut-être
Williams ?
Peut-être qu'ils veulent le récupérer à Charlotte, il l'adore.
Ah, peut-être bien. Ici.
C'est bien, il considère encore Zachary Rizaché parmi les Hawks, c'est cool, Jalen Johnson.
Le détail. Il n'y a pas Tyson Daniel, c'est pareil, c'est ce qu'on.
Bien sûr. Okay.
Rich Paul m'a dit surtout, Simon, tu ne le montres pas. Hein.
Oui,
ici.
On peut compter sur toi.
Bah oui.
Voilà. I take it.
En fait,
c'est.
Ouais,
d'accord, c'est pour Michael
Jackson. Michael
Jordan,
qui le prendra personnellement.
Bien sûr.
Parce que c'est bien ou c'est mal. On voit même,
Monaco.
Et il y avait surtout, voilà, quand tu vas chercher sur les côtés, parce qu'il avait mis des petits clubs, des Spurs et tout. Ici, on a l'Asvel.
La petite tâche sur Max Reno, c'est qu'il l'aime particulièrement.
Hein ? Oh oui, c'est des soucis.
Demande.
Des petits soucis techniques. Je sais pas, okay. Je vais lui demander.
Okay. L'Asvel, ouais, bien.
L'Asvel avec Tony P.
Wine, bien sûr.
Wine et l'OL.
L'OL, oui, il adore.
Ah oui. Bah, il adore l'OL, Rich Paul, grand Rich Paul et LeBron, des grands fans. Attends, depuis Réveillère. Monaco, la Formule 1, le vin.
Les taxes.
Et les taxes.
Oui, c'est intéressant.
C'est intéressant.
Okay.
Et on a encore deux dernières pistes, je t'embête.
Bien sûr,
mais
j'adore.
Rich Paul, et puis il s'est dit, je vais peut-être pas montrer ça, mais voilà. Paris pour le champagne. Mmh. Mieux que le vin encore.
Louis Vuitton.
Le PSG et Cannes.
Cannes.
David Cannes qui est au Paris Basketball, c'était
ah,
la
oui.
vanne quand il avait drafté à l'époque.
Olise Mobutu, ouais, c'est vrai que ça c'est intéressant. À la pointe de l'attaque, il pourrait organiser
là,
le jeu.
Là, il y aurait
un
autre sorte de 5 majeur, mais tu sais que ça joue. Hein. Olise
ouais.
meneur de jeu.
Ouais, bien sûr.
Bah, Mbappé, il est clairement shooting guard là-dedans.
Mobutu, arrière score. Ouais.
Voilà. Dembouz un peu ailier avec LeBron et tout. Et moi, je voyais. Alors, j'étais entre Doué et machin. On en a parlé avec Rich Paul.
Plus de taille, Barcola.
Ouais, Barcola, plus de taille.
On pourrait presque mettre Jean-Philippe Mateta dans ce 5 majeur.
On pourrait.
Ouais, c'est intéressant. Très bien, et ben merci pour cette
exclusivité. Voilà.
Comme quoi, le Week Pass c'est une émission d'information.
Ah bah on a des scoops. Hein.
Ouais, ouais.
Il me l'a reproduit et tout. Il m'a dit je peux pas attendre. Parce qu'au début, il voulait m'envoyer tout le tableau.
Mmh. Ah bah là, on avait pas la place là derrière.
Bah non, et puis les timings étaient un peu
courts. De France.
Donc je lui ai dit écoute, laisse-moi le voir. Je prends quelques notes. Mmh. Et voilà, donc merci à Rich.
Merci, ouais. Merci beaucoup
merci
de
LeBron.
Cette confiance. Bien sûr. Mais en même temps, là en ce moment, les informations sur LeBron sont partout. Hein. On a vu des dirigeants y aller. Enfin, c'est donc il maintenant c'est à l'international. Il donne des exclus au Week Pass en France. C'est très sympa de sa part. Merci Rich.
Ben oui, merci Rich. Ça nous permet en plus
de faire une transition vers un trophée de la semaine du centre de l'attention.
Parce que là, on redevient un peu sérieux. Enfin, pas que.
Oh, quoi que.
Mais alors le centre de l'attention, bon, Rich Paul, machin. Mais c'est on le révèle, non, Robert ?
Oui, ben les gens ont compris.
C'est évidemment LeBron James.
Donc, tu sais que celle-là, dans les transitions, passer du vrai faux tableau. Voilà, bon.
Non, mais surtout,
n'importe
c'est
quoi.
Très très fort. Moi, on en a donné des trophées. Mais alors, un qui mérite autant sa récompense du centre de l'attention que LeBron James en ce moment. Là, il y avait la première, la deuxième et la troisième place, il me semble.
Ah oh, oui, oui, oui.
J'ai failli un peu trop spoiler. Mais voir, je sais pas son nom, le dirigeant des Sixers, ancien des Warriors, Bob Myers.
Bob Myers.
Aller sur le podcast de Rich Paul pour faire.
Ça, c'était un peu too much, moi, après, j'ai trouvé.
En live, à quel point il le veut. Et Rich Paul qui lui dit dans la tête que ça n'a aucune importance ce qu'il est en train de dire dans le choix de LeBron. LeBron qui se pointe en Ohio après qu'il va faire des golfs avec Draymond Green. Il sait exactement ce qu'il fait. Et qu'est-ce qui le fait intensément. Je sais pas si je peux dire bien ou mal, mais on le voit partout.
T'as une espèce de fausse transparence, mais qui est quelque part très honnête de dire, de toute façon, quoi que je fasse, je vais être au centre de l'attention, donc je l'assume complètement, et limite, j'en joue.
Ah, clairement.
Là, on a appris aussi aujourd'hui qu'on ne peut pas contacter LeBron directement, mais qu'on a, d'où ce petit gag, quand on a le numéro de Rich Paul, on peut laisser un message vocal,
ouais,
et en gros, pitcher son cas. Allô Rich, oui c'est Simon. Alors le FCMS, pourquoi? Parce que tu vois,
on a sorti des cracks. Non mais Sadio Mané, ouais, non bien sûr. Là, tu peux faire ce que tu veux. Ouais.
Ça doit donner tellement envie de troller la messagerie de Rich Paul. Mais bon bref, du coup tu perds LeBron, mais par contre t'as fait une super blague. On a appris, bon on a vu évidemment la séquence du tableau. On a aussi ce petit facétieux de ce petit malin de Richard Jefferson qui lui s'amuse entre temps à dire, moi je sais où il va, moi je sais où il va, mais je vous dirai rien. Parce qu'évidemment il y a pas mal de gens qui disent aussi, non mais en fait il sait depuis longtemps, on s'est fait. Mais par contre, il y a beaucoup de choses à régler. Donc en fait, dans l'interstice, ils jouent avec l'attention des médias et tout.
Ils veulent attendre la fin de la Coupe du Monde.
Ils veulent attendre peut-être la fin de la Coupe du Monde. Il y a aussi des gens qui disent que tout ça irait avec un dispositif médiatique assez monstrueux. On parle d'un docu sur la prochaine saison de LeBron.
Ouais.
Mais je sais même pas si c'est pas LeBron lui-même qui en a parlé. J'ai un doute maintenant au départ.
En tout cas, j'ai l'impression que c'est sorti qu'il y en aura probablement une. Ouais,
ouais mais je crois qu'au départ, l'info vient. Bon, j'aurais dû. Mais je crois que l'info vient même de son camp, même pas des journalistes. Ou de gens très proches en tout cas. Donc on peut imaginer qu'il y a encore 2-3 détails à régler, notamment le moment de l'annonce, qui serait à mon avis dans le début du docu par exemple, enfin tu vois, donc comment tu fais. Tout ça me laisse quand même, moi personnellement j'enchaîne, hein, mais s'il va pas au cap, je suis sur le cul par contre. Si là il y a tout ce pataquès, et qu'à la fin, mais ce serait en même temps très bien joué peut-être médiatiquement, mais qu'à la fin ils font I bring my talent ou Cheesesteak Philly là, ou je sais pas quoi hein, par exemple. Et même Miami, au début je me disais, même Miami en fait là je serais un peu surpris.
Ouais j'ai l'impression aussi.
Puis ça prendrait toute la lumière à Giannis.
Puis en vrai c'est assez dingue à quel point aussi ça a un impact sur d'autres free agents. Là on sent que le contrat de James Harden n'a toujours pas été signé. Je pense que ça attend de voir économiquement comment ça se passe.
C'est pour ça que je pense que Cleveland... Parce qu'Harden il n'y a même pas de bruit qu'il irait ailleurs, il y a juste il attend.
Ouais mais bon, tu vois au Nuggets il y a Peyton Watson, le cas est toujours pas réglé. Tu pourrais dire peut-être que ça... Après, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer aux Nuggets, mais bon, ça fait partie des 5-6 équipes qui reviennent souvent.
Ce serait chelou.
Ce serait chelou. Hein. Mais non, c'est... il prend le temps et je pense qu'il y a plein de free agents là, qui attendent encore. On voit la Gershon qui a fait le pari lui, de partir assez tôt, mais il y en a plein de gars qui attendent là, pour finir les équipes et qui sont dépendantes de ce cas-là. Mais sauf que LeBron prend son temps et elle le centre de l'attention, donc c'est bien mérité.
Ouais.
Ça nous rappelle évidemment un petit peu l'été de The Decision. Et du coup, moi, je t'ai fait un petit jeu, The Decision, pour récompenser aussi ce trophée encore un petit peu plus fort. C'était il y a 16 ans, The Decision, en 2010, quand on était déjà dans une période un peu de l'année, un peu comme celle-là, où tu avais en même temps Wimbledon, Tour de France et la Coupe du Monde de foot. Et du coup, on en a parlé pendant le dernier live.
Il y avait une Coupe du Monde de foot pendant 2010. Oui, il y avait
On a parlé pendant le dernier live.
Ah, c'est le bus.
Je t'ai préparé un petit, je t'ai préparé un petit cash, duo ou carré, un petit peu comme dans le jeu télévisé, sur ces événements sportifs de 2010.
Oui.
Je me suis dit que la Coupe du Monde, tu saurais évidemment qui a gagné, mais du coup, je voulais te demander qui a fait demi-finale de Coupe du Monde. Je veux les quatre équipes, donc je peux t'en rajouter d'autres si tu prends carré.
Attends, parce que j'ai un doute avec 2014. Allemagne-Argentine, c'est 2014. Donc je suis perdu. Donc 2010, moi je raisonne comme ça. 2010, c'est le bus, c'est l'Afrique du Sud, c'est les Vuvuzela. Tu sais que je suis perdu là. C'est l'Espagne qui gagne. C'est le mondial que gagne l'Espagne.
Oui.
Contre les Pays-Bas.
C'est exact.
Et les demi-finales. Bah nous on n'y est pas vu qu'on est dans un bus. J'ai un doute sur deux trucs.
Tu veux 4 équipes pour en avoir 2
Non, je vais essayer un cash. Un cash. Je vais pas non plus plomber et prendre 20 minutes dans l'émission. Mais c'est plutôt des. Le problème, c'est qu'il y a
une équipe qui est souvent là.
Oui, et il y a une surprise, c'est ça, bon.
Une surprise ou bof, mais une équipe qui a enchanté à l'époque un petit peu le. En tout cas, le.
Il n'y a pas l'Uruguay ?
Il y a l'Uruguay. C'est
Forlan et tout, c'est le. C'est
exactement.
Ouais, merci pour l'indice. Il y a l'Uruguay. C'est hyper contre les Pays-Bas, je crois.
Ouais, dans un super match, et une frappe de Van Bronckhorst.
C'est l'Allemagne ?
C'est l'Allemagne.
Ouais, c'est une demi.
Cache de
le problème, qu'ils jouent beaucoup à ce moment-là, parce qu'il y a les Euros. C'est ça le problème, des fois, de se rappeler des demi-finales de Coupe du Monde quand elles sont européennes, tu vois.
Mm.
Bah là, d'ailleurs, ça.
Il y a l'Uruguay, mais.
Ouais, mais. Les... Oui.
Le Tour de France 2010. Carré, duo, cash.
Wow, tu peux mettre même octogone si tu veux. je trouverais pas. Non, dans les années là.
Ouais, je t'en donne que deux si tu veux.
Non, mais je vais essayer au pif. Donc Indurain est mort depuis longtemps. Lance Armstrong aussi. 2010, c'est à 15 ans quand même. Rah, okay, c'est vraiment une période où j'ai un trou dans le vélo à ce moment-là. Donne-moi-en deux.
Christopher Froome.
Ah, Froome.
Ou Andy Schleck.
Ah, Schleck, bien sûr, le... Schleck.
C'est Andy Schleck. Il me semble que c'est un des Tours de France qui a été réattribué par la suite, qu'il avait peut-être fini deuxième à l'époque, mais c'est lui qui, au final,
Froome,
a gagné ce Tour de France.
Il l'a gagné en voiture. Il avait... mais, tu le voyais, il avait des pauses, il mettait de l'essence directement dans le
Froome, c'était plus tard, mais lui, il s'est pas fait enlever de Tour de France.
Ah,
Froome,
ok, bon, tant pour moi. Sur le vélo, je suis complètement dans l'amalgame, le complot, tout ce que
Froome,
tu veux.
Je crois pas, il en a pas perdu.
Moi,
par
je.
La suite. Et Wimbledon 2010, hommes et femmes, pareil, duo, cash.
Nadal.
Parfait, c'est vrai, c'est Nadal. Pourtant, il n'a pas gagné tant que ça.
Non, mais c'est là, c'est dans les années, c'est son prime.
C'est ça.
Donc, chez les femmes, Serena Williams.
Magnifique.
Ouais.
Magnifique.
Bah, en même temps, Serena Williams, ça te fait pas un truc genre 8 Wimbledon de suite dans les années où pas
Serena,
j'exagère à peine.
Je sais pas,
hein.
Mais parce qu'il y en a, il y a du Vénus, il y a
ouais,
du Sharapova qui glisse, il y a même Mauresmo, mais
complètement de la chatte.
C'est beau. En tout cas, c'est beau.
De la chatte, mais bon, c'était les plus évidents, non ?
Rien à voir. Mais vis-à-vis de The Decision, on sait tous que LeBron portait une chemise à carreaux.
Oui.
Mais quelle était la couleur de ces carreaux ? C'est un rouge, ouais.
Rouge
un
grenat. Moi, je croyais qu'il allait au FCMS. Putain, le con. Il a sorti la chemise grenat.
Parfaitement. Enfin, j'ai tout simplement une liste de joueurs qui ont joué à Miami et Cleveland.
Oui.
Je me dis que si t'en as 5, c'est le niveau facile.
Zidrona Sulgoskas.
D'accord, c'est
le
validé.
LeBron James.
Ouais. Dis 5 faciles, 7 intermédiaires, 10 efforts. Sachant qu'il y en a 45 dans l'histoire.
Bimbo Calls.
J'imagine, je le. Enfin.
Tu l'as pas ? Je sais pas pourquoi, c'est toutes les cartes de basket qui me sont revenues. Il a joué. Je suis à peu près sûr qu'il a joué à Miami.
Ouais,
peut-être
il est là, Bimbo Calls.
Attends, il doit avoir des mecs beaucoup plus. Est-ce que Richard Jefferson ? Est-ce que J.R. Smith ? Est-ce que Kevin Love ?
Kevin Love, c'est bon.
Zidane Sulgoskas, je l'ai dit. Aslam, il bouge pas. Wade.
Wade, c'est
bizarre
bon.
Que ça puisse paraître, mais Wade, il a joué. Bob Sura.
Wow. Tu me lâches tes noms.
Mais je suis pas sûr qu'il joue à Miami, Bob Sura.
Là, je le vois pas dans la liste.
Terrell Brand.
T'as déjà validé le niveau facile.
Ouais. Carlos. Non. En fait, je pars des caves. Il a joué pas longtemps, mais il a joué un peu. Ricky Davis. Je pense qu'il a joué à Miami. Ah, pas sûr.
Ricky Davis, je le vois pas moi. Dans
le mec est John Waiters.
John Waiters, c'est bon. Je te laisse encore une dizaine de secondes.
Ouais, parce que je suis dans les années un peu des caves.
T'en laisses quelques-uns de très, 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 très gros quand même.
Ah ouais ? Genre des All-Stars ?
Ouais.
Alonzo Mourning. Shaq ?
Shaq, notamment.
Attends, ouais, je n'ai pas pensé au plus gros. Antoine Jamison dans les caves.
Bah, c'était le plus gros qui manquait. Hein.
Ouais, bah, c'est le cas de le dire. non, écoute, on va arrêter là. Mais
oui,
j'aurais bien aimé montrer plus de skids, mais ça. Ouais.
Bon, c'est déjà pas mal. T'as des beaux noms. Enfin, t'as du.
Ah, ça m'énervait.
Sean Livingston, Mike Miller, Sean Marion, Dan Majerley.
Sean Marion costaud, mais ouais, j'aurais pu. Dan Marley, bien sûr.
Max
bah, oui,
Truss récemment.
Max Truss.
Smash Parker, Wayne Ellington,
Joel
Deng, Jake Roeder. Alec Burks, Thomas Bryant dans les récents.
Lui Holding, Cleveland.
Lui Holding, ouais,
Lui Holding, il a joué à Cleveland. Attends, je l'ai pas.
Ouais, en 2014 apparemment.
Pas longtemps. Hein.
Non, juste 40 matchs.
Ah quand même, une demi-saison. Ah, là, tu vois Lui Holding, je l'aurais pas. Ok.
Voilà, c'était mon petit jeu.
Attends, il y a Rich Paul qui m'a laissé un vocal.
Ouais. Dis-moi.
Bon, j'écouterai après, mais je crois qu'il est fâché.
Ok. Ah oui, t'as trop dévoilé.
J'ai trop dévoilé.
C'est bien dommage.
Salut Simon. Ok.
On va pouvoir passer.
Il laisse des vocaux, c'est que c'est des mecs comme toi, il laisse des vocaux.
Au gros débat. Le gros débat, tout simplement, comme on disait, on voulait revenir un petit peu sur notamment la fin des playoffs, peut-être, la draft, la free agency,
ouais.
Essayer de faire une grosse bassine.
Ouais.
Et pour ça, on a préparé un petit top 3
oui.
Des choses qu'on a préférées cette intersaison
ouais.
De basketball.
Ouais.
Donc, est-ce qu'on commence direct ou
oui,
est-ce
si que... on commence ouais. direct par le top 3 de, ouais, de choses préférées de l'été, on va directement les tablettes, on y va.
Ouais, ouais. Donc, je te laisse écrire
et puis
tranquillement.
On verra.
On met nos numéros 3.
Ce que tu veux en wildcard or, mais on met quoi? On se fait un podium? Comment on le fait? Donc, c'est nos 3 trucs préférés de l'été,
ouais,
et demi,
ouais.
On est d'accord.
Ou alors, on fait un ping-pong en fait.
Ouais, on fait un ping-pong. T'en mets un, j'en mets un. Parce que j'ai pas forcément de hiérarchie.
Ouais, moi non
j'ai
plus.
C'est plus un ordre dans lequel j'ai envie d'en parler, mais.
C'est parfait.
Le premier truc, si peut-être le plus important quand même, en premier. Là, c'est ton truc le plus. Ah, bah non.
Non, mais je peux y aller.
Ouais.
Tu veux que je me lance en premier?
Ouais.
Moi, ça en 6 lettres. On n'en a pas eu le temps d'assez en parler sur la chaîne, on en a bien conscience. Ça arrivait un timing un petit peu bizarre. La Melo Ball, le trade au Minnesota Timberwolves. Moi, je suis un grand fan et je sais que tout le monde n'est pas de cet avis. Je vais faire mon avocat de fan forcément. Déjà, j'adore la Melo Ball, évidemment. Mais l'année dernière, je trouve qu'il a passé un cap assez exceptionnel en termes de moteur d'attaque. On a vu que quand il n'était pas sur les parquets et quand il était sur le parquet pour Charlotte, la différence de plus-minus, de rating positif, pardon, a été de plus de 12 points, ce qui est énorme. Mm-hmm. C'était vraiment le moteur offensif. Je ne sais pas trop à quoi va ressembler Charlotte sans lui cette saison. Évidemment qu'il y a l'immense question des blessures. Et ça, je ne vais pas le nier, c'est le gros if pour moi de ce trade. Mais en fait, l'année dernière, Minnesota, pour les avoir beaucoup regardés, parce que j'aime beaucoup cette équipe, je ne m'en cache pas, il y avait quand même un énorme manque de deuxième personne derrière Anthony Edwards pour apporter un danger offensif. Il y en a qui, par séquence, ont réussi à prendre ce rôle. Ayodosunmu, qui l'a fait sur quelques matchs, même des belles entrées de Terrence Shannon Jr., ou de joueurs comme ça, Mike Conley, qui a fait des bonnes petites choses, mais un vrai deuxième porteur de balle principal, ça manquait énormément. Et en fait, il y en a qui ont peur parce qu'ils sont un peu déplumés sur les intérieurs. Moi, ça me fait pas de ton peur parce que j'ai l'impression que pendant ces playoffs, ce qui manquait aussi beaucoup, c'était de l'alternance bizarrement intérieur-extérieur. Randle a pas toujours, enfin, il a pas fait des très beaux playoffs. Nasrid a fait de beaux playoffs, mais quand tu regardes jouer Nasrid, il joue pas comme un intérieur. Il fait des steps, enfin, c'était par le dribble, par des steps.
Ah non,
en
attaque, c'est un ailier.
C'est un ailier complètement. Et en fait, récupérer la Melo Ball, je trouve pas que ça décharge tant parce que je pense que ça va mieux responsabiliser tes intérieurs. Je pense que l'alternance sera mieux trouvée dans. Il va se régaler avec Joan Berger. Rudy Gobert va avoir un rôle peut-être encore parfois plus clair, parfois plus défini. Et je pense qu'il est arrivé au niveau de maturité où il peut tenir cette raquette entre guillemets à lui tout seul. Jaden McDaniels va être dans un rôle aussi encore plus clair et peut-être magnifique. Donc je pense qu'en attaque, ça va faire passer un énorme cap à cette équipe de Minnesota. Je pense qu'ils vont être beaucoup plus dangereux. Que même Anthony Edwards va avoir des meilleurs couloirs de drive, donc va pouvoir être encore plus fort. Et que le spacing va être encore.
Je vérifie juste le contrat de la Melo. Hein,
ouais. Le spacing va être encore plus réussi. T'as Ayodosunmu dans les coins, il va recevoir des ballons, il va rater aucun 3 points. Je pense qu'en attaque, c'est un énorme step. Et en défense, je trouve pas que ce soit une telle downgrade. Parce que, on l'a dit, Julius Randle, Nasrid, c'était pas forcément les points forts de Minnesota à ce niveau-là. La Melo Ball arrive, c'est aussi un point faible, mais qui est sur des postes qui sont plus faciles à cacher. Et il est quand même très grand. Et il est pas. Ouais. Déjà, il est pas mauvais en défense, mais il est très grand, ce qui veut dire que. Je sais pas, quand tu joues OKC, tu peux le cacher sur un Lou Dort, sans problème. Quand tu joues les Spurs, tu peux le cacher sur un Champagny, sur un Vassell. Quand tu joues les Nuggets, tu peux le cacher sur un Christian Brown, j'en sais rien.
Tu le mets sur le moins bon extérieur adverse.
Voilà, et puis ça peut aller jusqu'au poste 3, c'est ce que je veux dire.
Voir des 4, selon. Oui.
Et 13, les Ayodosunmu, les Jaden McDaniels, les Anthony Edwards pour faire le taf principal. Et en plus, tu as le meilleur. Enfin, le deuxième meilleur protecteur de raquette ou presque derrière toi, qui est un défenseur super intelligent qui va pouvoir lui donner les bons conseils. Pour moi, s'il ne se blesse pas, c'est un énorme win de Minnesota ce trade et je suis extrêmement excité par cette équipe l'année prochaine. Je pense qu'ils peuvent être très très forts. Voilà, comme ça c'était...
beau plaidoyer. Je suis assez convaincu sur le fit, tout ça, l'utilité, la façon de changer, de passer vraiment à Gobert et puis c'est 4 extérieurs, voire même des petits 5. Mais... Il y a quelques. Je suis encore.
Bien sûr, vas-y, je sais que tout le monde n'est pas aussi convaincu que moi.
Non, moi j'ai pas. C'est le problème, c'est peut-être bizarre, mais. En termes d'identité, j'ai besoin de les voir ensemble. Et la perte de Nasrid, notamment, identitairement. Enfin, on avait tellement vu ces Wolves là depuis 2-3 ans, et j'en suis presque à me dire. Ça me rend encore plus amer le transfert Towns de leur côté. Hein. Le Towns pour Randle et DiVincenzo, parce qu'en fait, il en reste des cendres aujourd'hui. Towns est champion NBA, tant mieux pour lui. Mais du coup,
DiVincenzo pourrait revenir au cours de la saison.
DiVincenzo pourrait revenir. J'ai besoin de voir vraiment des matchs, de voir la Melo. Je pense que là où je te rejoins complètement, c'est que pas mal de gens ont gardé une image de la Melo qui en fait date d'il y a 2 voire 3 saisons.
Par contre, moi, j'ai quand même un énorme problème, c'est qu'il a mûri tout ça. Mais le problème des blessures, et des... ça, c'est un vrai problème.
Les blessures, ouais. Alors,
autant ses tatouages, tout ça, on en pense qu'on veut. Il y a des questions de goût, mais là, je parle juste du fait qu'il manque des matchs, toujours et encore. Cette année, ça allait mieux. Donc, c'est ça qu'il faut. Voilà, moi,
puis,
je.
Puis dans la maturité, là, ce dont tu viens de parler, moi, je pense que c'est aussi une énorme win pour la Melo, parce qu'à Charlotte, il. Ouais, on en rigolait qu'il était arrivé dans un vestiaire de parfois de délinquant. On en rigolait un peu les Charlotte Hornets à l'époque. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas vraiment de vrais vétérans, etc., pour l'entourer. Là, il va arriver chez des gars qui savent gagner, qui savent ce qu'il faut faire en playoff et qui, je pense, peuvent le responsabiliser. Et pour lui, je pense que ça peut être. On peut avoir une autre mentalité. Et en plus, il n'a jamais joué avec des joueurs aussi dominants à côté de lui. Donc, je pense qu'il va pouvoir encore plus briller.
Là où je te rejoins, c'est énorme curiosité. C'est peut-être même le podium de mes curiosités de l'an prochain, tu vois. Mais du coup. Moi, j'avoue que le truc le plus important pour moi de l'été, je le résumerai comme ça. T'arrives à dire
ailleurs. Yanis
ouais,
ailleurs.
Giannis ailleurs. Alors, à Miami, entre autres. Mais pourquoi j'écris Giannis ailleurs? Parce que. Ah, Giannis au Bucks, là, ça fait. Alors, autant il y aurait eu un scénar où il restait toute sa carrière au Bucks et il traversait les aléas et tout. Mais c'était devenu beaucoup trop compliqué de rester. Tu vois, moi, je crois en l'amour et au fait que parfois, faut traverser des.
Des tempêtes.
Ouais, non, mais là, c'est plus une tempête. Là c'était ridicule. Ça allait, ça c'était comment dire, en fait ça menait plus à rien, ni pour eux ni pour lui ni pour machin, et de retourner la vapeur pour redevenir une équipe capable de gagner le titre paraissait impossible.
Ouais, oui, non,
pourtant
je
crois à plein de scénarios, il hein, y a pas de problème.
C'est vrai que si voilà. C'est toi qui le dis, ouais, c'est que vraiment c'était foutu. Ouais.
Mais qui a envie d'aller avec Milwaukee et qu'en plus ce qui s'est passé récemment, enfin on a vu, et Lillard, ils l'ont fait le move pour Lillard, ça leur a pété à la gueule. Lillard, il est revenu à Portland.
Ah, c'était la dernière chance en fait.
Hein. Lillard, il a dit non, mais en fait, je me casse, je rentre chez moi, ça, votre truc là. Et Giannis, tu vois, je crois. Même Giannis a été quelque part assez classe parce qu'il aurait. Tu vois, il a. Alors, il a fait durer le truc, mais il a fait en sorte que le trade est bon pour les Bucks.
Ouais.
Le trade est très bon même pour les Bucks. Tout de suite là, on voit. Ah bah, reconstruction déjà. Ils ont quand même un peu braqué Miami sur le nombre de joueurs, d'assets, de trucs et tout. Tu vois, ils ont réussi. Voilà.
Braqué, je sais pas, mais en tout cas, t'as redonné une direction au projet directement.
Moi, je trouve que tous les picks plus, il y a presque un joueur de trop en fait. Il y a le t'as le Tyler Hero, donc qui est quand même en plus du coin. Et t'as Kelel Ware, en fait, je sais plus, c'est Ramirez et
Kasparas.
Ouais, en fait, Kasparas, vas-y, laisse-le à Miami là. Il y avait moi dans l'équilibre, je trouve, mais tant mieux pour Milwaukee. Bref. Et Giannis ailleurs, pourquoi? Alors, d'autant plus à Miami, mais donc en gros dans une franchise, un club un peu plus costaud sur la carte NBA, une ville, gros marché, tout ça. Mais je m'en fous, en fait, c'est juste pas ça. C'est de voir Giannis ailleurs, justement, qu'est-ce qui va se passer? Là, il se trouve que c'est à Miami, il se trouve que c'est avec Bam, il se trouve que c'est avec Spolstra, il se trouve que c'est avec Pat Riley, il se trouve que c'est avec Wiggins. Bah, très bien. Moi, je suis juste content, je m'arrête là, hein, mais je trouve que c'était du gâchis.
Ouais, ouais.
Je trouve qu'il y a les deux dernières saisons où Giannis, et malgré tout, il joue 50 matchs, il est là, il est pas là, il est machin. Et en fait, à chaque fois que moi je le voyais jouer quand même, pourtant plus très motivé, je me suis dit, mais ce mec-là, qui est meilleur des deux côtés du... Qui a plus d'impact des deux côtés du terrain? Je reprends l'argumentaire là, Wemby. Là. Et Wemby avait raison de mettre ça sur la table au moment où il se déclarait candidat MVP. Qui, quand il est à fond... Alors, c'est pas mon attaquant préféré dans le style, hein, Giannis. Mais le cercle à cercle, là, et ah, même sur demi-terrain...
T'as raison, on a trop hâte de le revoir jouer au basket et de le revoir très motivé
et
dans des bons contextes.
Et on sous-estime un truc, c'est qu'une raquette à des bails aussi, ça marche un minimum. Giannis dans les relais. Moi, je veux bien jouer Lee à côté d'eux. Je pense que tu sais que t'as des angles de passe, t'as des shoots ouverts, on parle de gravité, mais on pense trop au shooting et tout. Des pick and roll avec Bam et puis la bonne coupe au moment de Giannis, bah, moi je veux bien être le mec qui. Tu sais, c'est comme aux échecs. Enfin bref, t'as un pion qui est caché par la diagonale. Merci. Moi je veux bien être le mec, le petit pion là dans le coin, et quand Giannis y coupe, genre coucou, je suis là en fait.
Mais ça... bah, on vient de bien parler du corps de Lamelo. Le corps de Giannis, va falloir prouver aussi qu'il est capable de retrouver de la durabilité. Et...
j'ai aucune inquiétude.
Ça fait quand même 4-5 ans hein, qu'il a des problèmes. Genre, je trouve qu'il passe un peu sous la table.
Non,
c'est
je suis d'accord
une jury
avec toi.
Prone maintenant.
Il est une jury prone, mais justement maintenant c'est fait. Il va pas. Et en fait, je pense qu'il va aussi à Miami moins bourriné, moins être explosif et tout. Ils vont lui apprendre ça. Et là, par contre,
j'espère.
Je suis content qu'il soit à Miami pour cette deuxième partie. C'est même plus que la deuxième partie de carrière, pour cette fin de carrière, on va dire ce troisième cycle dans sa carrière. J'appellerais ça comme ça. Mais cette deuxième partie par rapport à toute la partie box, où je pense qu'il va apprendre à jouer encore plus intelligemment sur l'expérience de jeu, le placement, des trucs comme ça et tout. Et je serais pas surpris qu'en attaque, il y ait 2-3 petits trucs qui se débloquent dans le jeu de Miami avec Spoelstra et tout. Peut-être un peu utiliser de mi-distance, même des push-shots, des trucs un peu qu'il est capable de mettre. Il est pas si dégueulasse, et au shoot de loin et tout sera toujours compliqué. Mais au toucher sur une main en mouvement, on le voit, les lay-ups, les finitions. Des trucs tout simples en fait. Rajoute-toi un petit hook. Tu vois, épaule contre épaule, un petit hook, des trucs. Donc tout ça, bah tu vois comment, voilà, je pourrais. Tout ça, en fait, l'idée de voir Giannis coaché par d'autres personnes, dans une autre dynamique d'équipe, dans une autre synergie, rien que ça. Ça aurait pu être même aux Hawks, ou ce qui tu veux et tout, Giannis ailleurs.
Ça me va parfaitement. On vous a dit qu'on parlerait un peu de tout. Moi, ma prochaine étape, c'est le... J'ai écrit top 4 draft, match parfait. Parce qu'au-delà d'avoir ces 4 joueurs, Darren Peterson, AJ Dibensa, Cameron Boozer et Caleb Wilson qui sont extrêmement intéressants et qu'on a envie de voir, je trouve qu'ils sont, et c'est rare pour un haut draft comme ça, retrouver dans des situations qui m'intriguent directement pour tous. On en a parlé le soir de la draft, on trouvait ça presque logique, les sélections, etc. Mais là, t'as un Darren Peterson qui arrive chez les Wizards de Trae Young, d'Anthony Davis, d'Alexandre Sarr, et qui arrive sur le poste qui était peut-être un peu plus faible, même si évidemment il y a des très bonnes choses de Kishon George, de Bilal Koulibaly et compagnie. Mais il a un spot tout trouvé au milieu de ces autres gars-là et d'une équipe qui, je sais pas, sur les réseaux sociaux, j'en lis qu'ils les mettent déjà top 6 à l'Est l'année prochaine.
Ah ouais, carrément.
Et bah, tu peux dire pourquoi pas, en fait. Hein, y a un petit peu de profondeur. Tu récupères des Ayton pour faire la rotation de la raquette si ça se blesse pas trop, etc. C'est super intéressant. Donc d'entrée, j'ai très envie de voir ce AJ Dibensa dans potentiellement une équipe qui peut être compétitive à l'Est. Mmh. Ça va être dur, je suis d'accord avec toi. L'Est est bien plus fort l'année prochaine que ça ne l'était cette année. Ensuite, Darren Peterson, c'est un peu le même résumé. On a cette énorme front court avec Jaren Jackson, Lauri Markkanen, tu as du Ace Bailey, Ketchala, Kiante George. Il arrive, il s'imbrique parfaitement dans ce projet et dans ce 5 majeur qui est un 5 majeur pareil, compétitif. C'est très dur, toujours dans la conférence Ouest. Mais en plus, moi, je suis un immense fan de Darren Peterson. J'ai hâte de voir ce projet et ça peut directement être très fort. Et ensuite, tu as les joueurs qui sont dans des projets un petit peu plus en retrait, mais qui peuvent être construits autour d'eux et qui sont super intéressants. C'est pas des projets qui vont nulle part. Là, Cameron Boozer chez les Grizzlies, déjà je trouve qu'il a une tête d'ours, donc je trouve que ça lui va à la perfection d'être là bien. Et ça va direct être le franchise player avec des autres ailiers qui seront déjà durs, qui vont prendre les challenges physiques qui peuvent être un peu plus parfois compliqués pour Boozer, les Coward, les Wells. Donc je pense que ça va être super sympa à suivre. Et enfin, Caleb Wilson qui arrive dans des Bulls qui ont l'air d'être un petit peu mieux dirigés que toutes ces dernières années, où c'est lui la star du projet, où il arrive sur les ailes avec deux autres rookies, j'ai envie de dire, même si Essengue n'est pas un rookie, mais il a fait que deux matchs et il n'était pas en forme, quoi. Donc là, Essengue, Swain, Bouzelis, Norman Bouel, qui va pouvoir lui apprendre quelques ficelles du métier, même si ce n'est pas le même poste. La star d'un projet qui se remet dans le bon sens. En fait, ils arrivent tous à des moments où les projets soit se relancent, soit deviennent compétitifs, et directement, t'en as 4 où tu sais que dès la prochaine, ça va être trop cool à suivre leurs équipes. Donc, ça m'a fait trop plaisir le soir de la draft. Ouais.
Je vais failli t'envoyer, big up à eux, ils font des micro-podcasts symbiose avec des bilans pour chaque équipe. Je failli t'envoyer celui des Bulls parce qu'ils sont assez sceptiques. Alors, eux, ils sont très très basket, fit.
Ouais.
Comment on appelle ça ? Complémentarité, compatibilité et tout.
C'est ça.
Je trouve que moi je prendrais plus de recul. Les Bulls, il y a un vrai nouveau staff. Et donc je pense que d'anciens joueurs, des joueurs, je m'exprime mal, des joueurs du staff d'avant vont partir. Mais c'est vrai que là, en l'état, il y a un petit embouteillage. Caleb Vinson, Noen Senge, Matas Bouzé, c'est pas les plus compatibles. T'as un peu beaucoup d'élite athlétique, on va dire. Voilà. Mais, alors je dis pas que Matas ou Essengue vont partir, t'as le temps, dans une NBA, t'as le temps de se poser ces problèmes-là, c'est pas la priorité. Là, je trouve qu'il faut donner une nouvelle image, un nouvel allant. Tu pouvais pas faire l'impasse sur Caleb Vinson, je pense,
non.
À la draft. Il regrettait presque un peu qu'ils aient pas pris un porteur de balle, donc Ekuff ou Michael Brown, j'imagine, mais le top 4 était tellement...
Bah, c'est ça, et puis t'as un manque de shoot. L'effectif n'est pas complémentaire. Le but, c'est pas d'être fort l'année prochaine, hein, pas du tout. Là, le but, c'était d'installer l'identité. On en a parlé en rigolant, mais le fameux slap. Ouais. Donc, ceux qui n'ont pas suivi, c'est globalement des grands athlétiques et physiques. Caleb Wilson, il rentre à 100%
c'est
là-dedans.
C'est stress, leap, athlétique, puissance, super power. Je sais plus quoi.
Du coup, tu as trois ailiers, Bouzelis, Essengue, Wilson, qui sont les trois pépites de l'effectif. Mais déjà, tu peux rouler à 3, ça
oui,
peut
oui,
le faire.
Oui, non,
Swain, il peut peut-être pas
se
côté le poste 2.
Tu vas t'organiser autrement. Non, mais c'était vraiment plus dans le micro-truc. Genre, Dalen, Swain, en fait, il a pas de shoot non plus, mais il peut porter la balle. Mais du coup, il y a déjà Guidi. C'est vrai tout ça, mais on va voir. Il faut penser moyen terme.
Oui,
on va
le
dire,
but,
pour
c'est l'identité, voir qui nage le mieux de cette petite
c'est
bande.
C'est ça. Et puis finalement, il va falloir assumer. Je pense que Caleb Wilson, vous avez dit c'est un poil différent. Bah, ils vont être en concurrence en fait.
Bah ouais, c'est ça, c'est très bien.
C'est tout, hein, c'est comme
c'est
ça.
Parfait.
Voilà, moi mon deuxième point, j'ai fait n'importe quoi, Robin, tu m'as laissé trop longtemps avec une tablette. J'ai dessiné une maison, je vous la montre, avec un petit
c'est
peu de paysage.
On voit pas bien, mais c'est des arbres ou c'est un ouragan à côté.
Ouais, c'est des arbres, ouragan.
Ok.
C'est des arbres, voilà. Ouais. Mais voilà, non, pas du tout, du coup, je vais l'écrire pendant que je le dis. Moi, c'est le trade de Sixers.
Bah, t'as pas besoin d'écrire. Hein.
Le trade Sixers.
Jalen Brown.
Celtics.
Ouais,
le trade de Jalen Brown.
Oui, bien sûr.
Trade de Paul George. Parce que. non, mais vraiment, tout de suite, la réaction, c'était. Shams. Pas s'est fait hacker. Ah, on n'est pas sur une Doncic.
Non.
Mais le truc de genre. Tu sais que c'est contre Paul George. Que je qualifierais de pire contrat, moi, ou presque de la ligue. Mais tu comprends que potentiellement. Quand tu commences plus à réfléchir court. Et voir les trucs. Oh, bah c'est le podium avec celui d'Embiid et.
Oui, non, j'ai dit plus court que celui d'Jalen Brown. Enfin,
mais voilà, plus court. Et puis que Jalen Brown, en fait, c'est une sorte d'extension potentielle qui serait folle pour les Celtics. Ce qui explique, en fait, après Brad Stevens. Mais ça, on l'avait pas tout de suite explication. Donc il y a deux jours un peu de flottement où je t'avoue qu'intellectuellement, pas seulement parce que, tu sais, je crois pas à beaucoup de choses dans la vie, mais le fait que les Celtics bossent bien et savent ce qu'ils font, c'en est une.
Oui.
Une sorte de certitude. Donc tu dis, attends, alors ils avaient peut-être pas autant d'offres qu'ils voulaient. Jalen Brown, c'est quelqu'un qui a l'air. On a appris notamment, par exemple, que les Nets avaient le trade que Sean Marks voulait et que c'est Tsai qui a dit bah non, moi j'en veux pas de Jalen Brown pour des raisons. Alors, on sait pas, mais ils se sont pris la tête au moment où Tsai prenait la tête à Kyrie.
Ouais.
Il y a des choses comme ça. Il y a du. Voilà. On peut imaginer que Jalen. Il y a des gens qui, même, qui sont presque au bord du complot, hein, qui disent que c'est notamment à cause de certaines opinions que Jalen Brown n'est pas bien vu par certaines sphères en NBA et tout. Sans aller jusque-là, le Stevens, en tout cas, ça c'est vrai, a dit bah, le contrat à 70 millions, mettez-le si vous voulez, mais nous on ne le mettra pas. En gros, hein, je résume, mais c'était
oui,
ça.
Bien sûr.
Vu qu'on ne le mettra pas et vu qu'on fera des manœuvres dans un an et tout, nous, Paul George, en fait, oui, c'est cher, mais ça finit dans un an. Ça fit avec ce qu'on fait. Très bon défenseur, polyvalent et tout. Meilleur stop. Alors, moins bon joueur que Jalen Brown, mais meilleur spot-up shooter. Il fait une bonne série contre les Celtics. Il a eu, et ouais. On ne le savait pas à l'avance, mais il a eu un peu d'intuition de me faire une bonne série,
clair.
Tu vois, ça là.
C'est clair,
voilà.
C'est clair.
Même ça fait très bizarre. Là, j'ai vu les photos Paul George avec un maillot de vert très 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 bizarre. Mais tout ça, je pourrais en faire des caisses et des heures et tout ça. Mais tout ça me passionne encore là. Mm-hmm. Quasiment quotidiennement, j'y pense ou j'y repense ou j'en parle avec quelqu'un ou je vais checker un truc dessus parce que c'est un des trades. Et finalement, j'ai résumé ça en un tweet en disant je pense que ce trade, on va en reparler et on va revenir sur genre. C'est un peu le trade des analytics quelque part qui condamne Jalen Brown et de la finance de l'autre côté en priorité numéro une. Et ensuite, le sportif te va pas si mal avec Paul George, mais c'est avant tout un trade financier, même identitaire. Enfin, refaire une vraie nouvelle équipe des Celtics. Et je me disais, si ça se trouve, dans deux ans, dans trois ans, ce trade, tu sais, c'est comme les. Un peu comme l'univers en mouvement. À chaque fois qu'on va le regarder, il aura un visage différent. Là, déjà, dans le trade, il a quoi, une semaine maintenant?
Ouais. Ah, il fait toujours parler, là.
Il a pas. Ouais, mais les gens ont déjà même plus. Enfin, les gens. L'ensemble des avis émis, c'est déjà pas tout à fait le même. On n'a pas la même perception.
Un retournement de veste.
T'as vu?
Bah, tu peux
là, on
est
à deux doigts à ce que l'internet dise, mais c'est un trade horrible pour les Sixers.
Ouais, non, c'est dingue.
Là, on apprend que si ça se trouve, Embiid va se barrer. Enfin, pourrait être marchand. Non, mais c'est des rumeurs encore.
Ouais,
mais
ça m'étonnerait.
Les faits vont faire que ce trade va vraiment dans un mois, dans six mois. Ça va être très marrant à suivre.
Ouais, tu peux me montrer l'écran parce que moi, c'est l'effet principal de ce trade pour moi. Mais
oui.
Je vais en parler. Mais oui, Jalen Brown qui assume qu'il va avoir besoin de temps en fait hein, pour s'y faire, entre guillemets, on avait cette première déclaration le lendemain de son trade. Depuis 10 ans, on m'a conditionné à détester Philly. On m'a conditionné à me dire on emmerde le process, mais maintenant je dois faire l'inverse et c'est ça qui va me prendre du temps.
Très intéressant.
Et même une semaine plus tard, il a un petit peu doublé. Il dit qu'il n'a aucune idée de ce qu'il va ressentir. Ça va probablement être bizarre. Ça l'est toujours aujourd'hui. Je me dis Philly, parmi toutes les destinations possibles, pourquoi faire ça? Enfin, pourquoi ils m'ont envoyé là-bas? C'était dans ce sens-là. Moi, l'effet que ça a straight sur moi, c'est ça me renforce ma cote d'amour de Jalen Brown. Tu vois, parce que je le fais rapidement, t'inquiète pas. Parce que, je le trouve très honnête dans sa démarche et ça me fait plaisir. C'est des déclarations qui sortent de ce qu'on entend tout le temps. C'est pas je suis amoureux de cette nouvelle équipe,
non,
je vais me mettre au boulot.
Il y a une franchise et une honnêteté qui est admirable.
Donc, merci. Et comme tu le disais là, maintenant, le retournement de veste, notamment sur Twitter, moi je me suis battu un peu avec des gens. Parce qu'en plus j'adore les analytics, mais je trouve qu'il y en a.
Tu t'es battu sur Twitter avec des gens.
Un petit peu.
Ouais. Étonné,
j'adore les analytics, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui les utilisent sans prendre de recul un peu sur les situations. Et je rappelle que sur les analytics, le 5 majeur d'Enix, il y a un an, il était Kata, Kat Brunson, c'était des joueurs.
Non,
pas.
Puis,
je veux dire, ça aide sur plein d'aspects les analytics.
Puis quand les plus-minus de quand t'es sur le terrain, pas sur le terrain, bah en fait ça dépend qui rentre.
Ouais, et puis même les pourcentages de tir, ça dépend quel tir tu prends et comment t'es.
Mais déjà rien qu'un truc. Moi, je parle souvent par exemple des joueurs polarisants. Tu prends Darius Ekhoff, il va être meneur, il va être nul en défense.
Ouais.
Son truc de plus-minus quand il est sur le terrain. Si derrière tu fais rentrer Gary Payton Prime, mais ça va le plomber parce que l'autre évidemment qui va mal. Si derrière tu fais rentrer moi et Robin, son plus-minus, son truc défensif de je sais pas quoi, il va pas bouger d'un poil, voire il va augmenter parce qu'on va être encore pire que lui en défense.
Et ça pour dire que
bref,
du coup, tu disais c'est très analytique.
Des fois, t'as l'impression que c'est des gens qui utilisent des outils mais qui ont pas lu la notice.
Ça, mais c'est très très intéressant, attention encore une fois les analytics. Mais oui, là depuis une semaine, quand il est sur les réseaux sociaux, t'as l'impression que Jalen Brown est un joueur absolument mid qui,
non mais un peu genre Carmelo quoi, il score mais en fait dans son coin. Ouais, mais c'est marrant, moi c'est pas la perception que j'ai. En plus les chiffres me donnent une perception de Jalen. T'as l'impression que c'est Carmelo Denix là.
Ouais,
quand tu dis des trucs.
Alors pas, du coup, moi, ça va être un de mes combats l'année prochaine de dire Jalen Brown n'est pas un joueur mid. C'est aussi simple que ça. Je dis pas qu'il est top 10 de la ligue.
Bah, tu sais quoi, il joue gros.
Mais c'est pas un joueur mid. Là, mais ça va être très intéressant à suivre.
Parce que autant aux Celtics, dans la structure et entouré quand même d'un truc très stable, il a fait une saison top 6 MVP. Autant aux Sixers, on en reparlera. Mais c'est pas. Alors, c'est très talentueux, mais c'est le bordel, hein, les Sixers.
Oui, oui, non, il va avoir besoin de temps.
Et Jalen Brown, il est. Moi, je t'avoue qu'il y a des choses qui me plaisent pas trop dans ça, comme.
Ah ouais?
Parce que je le considère très intelligent. C'est un des mecs NBA qui j'adorerais parler pendant des heures, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu vois. Là encore, on a vu alors, avec Ice Picho, là, je sais pas quoi, là, ouais. Le mec qui court là.
Oui, oui, qui fait des saltos, ouais.
Ils étaient encore. Il passe sa vie en stream déjà, Jalen Brown. Mais ouais, c'est pas nous qui allons qui jeter la pierre, c'est pas ça qui coule. Mais il lui dit en gros, bro, ils m'ont viré, ils m'ont viré, ils m'ont viré. Ouais! Ils m'ont viré. Alors déjà, oui, ils t'ont viré.
Je sais pas comment traduire pack me up, c'est un peu ils m'ont.
Bah, ils m'ont Amazon quoi. Ils m'ont mis dans un colis, ils m'ont colis quoi. Ils m'ont dégagé en tant que colis. Ouais, c'est vrai que tu peux ne pas le traduire. Mais je trouve qu'il y a un côté victime. Et déjà, il y a 4 ans là, plus gros salaire de l'histoire de la NBA, machin, ils lui ont mis le contrat. Ensuite, fallait pas. D'ailleurs, tu peux rendre. Mais fallait pas commencer à dire quand tu sors d'une émission au Matchette, brancher ton stream et faire. J'ai trop kiffé cette saison. J'avais toute la lumière sur moi. Bah non, mec, en fait. Enfin.
Rien, bien sûr.
Ils t'ont viré, C'est pas. Non, mais lui, il le fait un peu genre, j'y suis pas rien, quoi. C'est ça que j'aime pas.
Ouais,
je trouve qu'il fait pas du tout amende honorable de certaines choses, mais c'est peut-être pas le moment. Bref.
Moi, dans l'ensemble, ça m'a donné de l'amour pour lui.
Mais super trade, mais et on. Ouais.
Ouais, on va peut-être faire les derniers en bullet point un petit peu rapide. Ouais. Moi, de base, je voulais parler du front court des Raptors, parce que j'adorais Scotty Barnes, Kawhi et Murray Boyles. On va attendre un petit peu, du coup.
Et même le rookie en plus, la Greaves et tout.
Ouais, ouais. Ah ouais. Du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule, on va attendre un petit peu. Mini point sur les sophomores français, parce que je trouve que pour la plupart, cet été a été complètement dans leur sens. Et déjà, je trouve que la plupart, leur saison rookie ont été un petit peu, je sais pas si c'est sous-côté, c'est pas le bon terme, ça veut rien dire d'ailleurs. Mais en tout cas, ont été vraiment bonnes, surtout pour des gars qui n'ont pas tous été draftés très haut. Mais là, si je fais le point, on a un Noah Esengue où les Wolves sont comme dingue autour de lui, et il a grandi encore là, il fait la taille d'un pivot, donc ça va être super intéressant. Je pense qu'il va jouer des minutes post 5 peut-être.
Bah c'est ça, de toute façon ça va se résoudre comme ça aussi, le embouté.
Et où j'ai hâte, et il arrive dans un système qui a l'air à peu près plus sain. Et je pense qu'il va pouvoir se développer. Billy Donovan ne faisait jamais jouer les très jeunes. Même Bouzélis, il avait eu du mal à le lancer. Donc là, je pense qu'il arrive dans un contexte qui est bien plus favorable. Et on espère débarrasser de soucis à l'épaule. Johan Berenguer, les Wolves, ils ont dit. Ça fait un an qu'ils disent qu'il est intransférable et qu'ils l'adorent. Ils ont joint l'acte aux paroles en dégageant Nasri, en dégageant Julius Randle. Là, c'est clairement la première rotation dans la raquette des Minnesota Timberwolves. Ils prennent la Summer League comme un petit terrain d'expérimentation en le faisant jouer poste 4. Il va avoir un rôle exceptionnel dans une très bonne équipe et ça va être trop bien à suivre. Noah Penda, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas grand chose qui a changé au Magic, mais ils ont l'air de lui faire confiance. On verra avec le nouveau coach que ça donne. Maxime Reynaud avec Darius Aykev, je pense que c'est un gagnant de son arrivée. Ça va être super sympa comme duo. Ils vont tourner autour, on va voir si Sabonis sera encore là, etc. Je sais pas, mais je pense que la situation est toujours bonne pour lui.
Jalen Duren, pardon.
Oui, Nolan Traoré, un peu moins bien, surtout avec l'arrivée de Michael Brown, mais bon, on verra s'il arrive à.
Ah, il a quand même un coup à jouer. Il est en concurrence avec Saraf pour le poste de meneur remplaçant. Il y a des trucs. Demin, maintenant, il va jouer limite ailier. Ça peut s'ouvrir sur le backcourt.
Non, ça va. Je dis que c'est le seul sophomore français qui a pas gagné quelque chose cette
année. Dans une météo, il serait pas plein soleil.
C'est ça. Et je finis par Modi Awara qui lui a eu la confiance dingue des Knicks d'être prolongé en premier. C'était le premier dossier réglé de l'été.
Après, ils ont tout réglé sauf. Et en fait, ils ont tâché Mitchell Robinson.
Ouais,
parce que là on vient d'apprendre, c'est Clarkson qui a aussi signé.
Ouais, un plus petit salaire, un petit rôle, etc. Je pense que Modi Awara, là, c'est. On sait qu'il y a les postes 2, 3, 4 qui sont immovibles dans le 5 majeur, mais je pense qu'il va s'imposer, à mon avis. Je vais peut-être me tromper, comme la première rotation sur les ailes pendant toute la saison régulière, au moins prochaine. À lui de voir ce qu'il en fait, mais les Knicks lui font confiance, une équipe qui championne en titre. Je trouve ça assez magnifique comme situation. Donc sur les 6 Français qui sont arrivés l'année dernière en NBA, je pense que tu en as 5 qui ont une énorme carte à jouer cette année et c'est assez génial.
Ouais.
Est-ce que tu as une dernière petite bullet point avant de...
Ouais, bah alors vraiment, moi j'aurais bien parlé des Neo Clippers, mais on va attendre, on va se mettre en pause comme le transfert de Kawhi. Mais c'est vrai que sur c'est des joueurs que j'aime bien moi, Garland, Ingram, Rui Hachimura, etc. Et tout. Non, du coup, mais vraiment très vite, les petites arrivées en loose day, c'est vraiment pour aller piquer des Rockets. Okay. Marcus Smart qui retrouve Udoka, Bogdanovic, bon, qui est un joueur que moi forcément j'aime bien tout, mais je me dis qu'il est là-dedans.
il a peut-être un rôle. Ils ont pas de joueur comme lui.
Le porteur de balle, un petit peu.
Un petit peu shooter, un petit peu sixième homme, un petit peu valeur.
Pourquoi pas.
Re-signature de Tarizon. Finalement, on attendait du drama et tout. A priori, bon, il y a eu des histoires, c'est sorti qu'il aurait pu avoir un trade concernant KD, voire même Shengun et tout, dans l'histoire autour de Jalen Brown. Enfin, il y a des trucs qui sont sortis. Mais globalement, bon, ils ont pas fait de gros moves, on va voir.
Fred VanVleet qui prend sa player option.
Ouais, voilà, c'est des petits trucs, mais parce que je suis curieux, je trouve que leur saison avec le recul, elle est quand même vachement tronquée par les. Elle a pas vraiment eu lieu, en fait, leur saison. Ils ont pas eu vraiment leur chance en playoff. Bon, on va voir. Là, Steven Adams devrait être de retour aussi. Mm-hmm. Donc, des petites choses comme ça.
T'aimes bien que ça chasse la continuité avec quelques petits ajouts sur le backcourt, quoi.
Ouais, c'était vraiment. Puis c'était pour piquer autre chose, tu vois. Dans les... Parce que vraiment, l'herbe sur le pied, on avait préparé hier et on a pris de conscience sur ce cas. Moi, j'avais fait tout un plaidoyer pour les Neo Clippers bizarres, là. Mm-hmm. On verra. Et sinon, dans cet été, même si l'émission dure un peu et c'est une digression, bah, c'est quand même. Il y a aussi cette idée. Moi je vois partout, il y a pas mal de rapprochements, comme il y a la Coupe du Monde, hein, bien sûr. On va pas parler forcément de ça, mais juste de dire tous les trucs un peu les croisements avec la NBA, ces trucs qui traînent. Mais alors parfois c'est de dire en plus, mais bon, parfois c'est des petits articles bien rédigés quand même où il y a de la jugeote de si un joueur NBA, t'es le truc de foot. Voilà,
ce qu'on a fait pas en live,
ouais, c'est vrai, j'étais en train d'y repenser maintenant. Et ou des références de on va dire aussi que. Moi, j'aime peut-être d'un monde où il y avait vraiment un combat basket-foot que je trouvais toujours un peu bête, tu vois. Parce qu'on opposait les deux sports, en termes de valeur et tout. Genre, alors, pour les uns, enfin bref, c'était assez idiot. Quand tu faisais partie des deux camps, en fait, tu te mets des arguments. T'avais l'impression de dire, mais tu sais, c'est comme. Pourquoi vous vous détestez alors qu'en fait, moi, je peux.
Profitons de ces deux mondes.
Ouais, voilà. Mais le fait qu'il y a pas mal, on assume pas mal quand même, bah, même, je vois, la sphère basket assume pas mal qu'elle suit le foot. Je trouve que là, les mentalités ont un peu changé, que les joueurs. Je retrouve plus l'exemple, mais ça reparlait de NBA au sein des joueurs de foot.
Bon, ils assument tout ce qu'ils aiment, ça, en tout cas en équipe de France.
Ouais, en équipe de France, clairement.
Il y a plein de joueurs NBA là, qui viennent dans les travées de la Coupe du Monde.
Et puis, c'était pour faire. Là, on sort en plus de cette nuit. Enfin, cette nuit, c'était tard. Soirée-nuit, la France a fait un super match contre le Maroc, tout ça et tout. Donc voilà.
C'est vrai. Maintenant, on s'est régalé.
Cette ambiance, ce moment, ce crossover un peu free agency, Coupe du Monde, tu vois, tu mélanges, hein, tout se mélange un peu. Moi, j'aime bien. C'est très été, c'est très estival.
Mais malgré ça, c'est pas un 11 majeur qu'on a préparé pour la séquence suivante. C'est un 5 majeur. On est revenu un petit peu plus dans le temps. Là, en fait, on a surtout parlé de draft et free agency. Là, on va parler des playoffs, la fin des playoffs. On avait fait le dernier week pass, c'était à la fin du premier tour.
Bilan du premier tour.
On a fait un petit bilan. Là, c'est un bilan très express des playoffs, mais ouais, les joueurs qui nous ont bluffés. Au début, moi, j'avais un petit peu les joueurs qui m'ont fait changer d'avis, parce que ouais. Je dirais il y en a un ou deux dans cette équipe. Mais voilà, je te laisse présenter
bluffé,
l'équipe.
Bluffé soit par révélation, soit par effectivement, nous ont un peu fermé notre clapet ou des choses comme ça. C'est pas le 5 des meilleurs joueurs des playoffs, c'est vraiment on a trouvé ce terme de bluffé. 5 s'il fallait revenir, parce qu'on n'a pas mis Wemby par exemple, mais le 5 des playoffs, un peu des mecs qui ont les plus importants presque des playoffs.
Qui nous ont fait kiffer en fait.
Hors Wemby, ouais, qui nous ont fait kiffer. Bien sûr, Wemby nous a fait kiffer tout, mais on s'est dit c'est tellement évident qu'il grille un peu une place. Je commence par là, je commence par le pivot, je commence par en bas, mais je voulais parler de Towns parce qu'effectivement, toute l'année, moi le premier, il y avait des réserves sur Towns. Cette fameuse phrase un peu. Tu sais, c'est quand le jeu devient dur que les durs deviennent bons. J'aurais pas inclus Karl Anthony Towns tout de suite dans la bagarre, quoi.
Non, c'est
dans la conversation et du coup dans la bagarre. Moi, il m'a bluffé. Il fait des super playoffs. Alors, au début, au bout du match 3, là, quand il y a la fameuse attaque des Kings qui revient, enfin, des Kings, Sabonis, posto, main à main, etc. Et tu dis, ah ouais, en fait, Towns, c'est le nouveau Sabonis. Et en plus, il a un 3 points. Et en plus.
Je crois qu'il y a que toi qui disais ça. Hein.
Oui. Non, mais ils assument qu'ils font un peu tourner l'attaque. À un moment, il a plusieurs matchs à pas loin de 10 passes. Là. Tu sais, il a une séquence à 8 passes.
À partir de 2-1, c'est ce qui change. À partir de 2-1, c'est ce qui change. C'est que l'attaque passe aussi.
C'est pour ça que je fais la blague avec Sabonis.
Ouais, bien sûr.
Mais surtout, moi, je trouve que Towns, dans le caractère, dans le combat, on le sait quand même que c'était très très compliqué pour lui depuis le Covid et qu'il a traversé une phase très sombre, une énorme dépression. Il y a la moitié de sa famille qui est décimée par le Covid, dont sa maman, enfin voilà. Et je le dis, hein, moi ça m'a touché aussi cette façon qu'il avait, même si parfois c'était un peu redondant parce que c'était à chaque fois. Mais elle est avec nous, la présence, machin, comme il convoquait sa mère, mais aussi en fait d'assumer que lui, finalement, se bagarrait, voulait être quelqu'un de bien avec ça, de pas se laisser endoyer. Il en a parlé, il s'est ouvert là-dessus. Et joindre la parole aux actes. Un certain leader aussi, moi j'ai trouvé sur le terrain.
Ouais, clairement.
En mettant les gros shoots ou même en calmant un peu le jeu et tout. Son coéquipier Jalen Brunson, je recommence à la main parce que je présente le 5, donc à la main.
En arrêt, Jalen Brunson, j'ai même pas envie d'épiloguer et tout. En fait, il y a, bah, en fait, il gagne. Comment, c'était quoi la phrase? T'es meilleur que Jalen Brunson jusqu'à ce que tu
joues contre Jalen Brunson. Jusqu'à qu'il faille jouer contre Jalen Brunson.
Ouais, un truc comme ça.
Très belle, cette petite figurine.
Et puis, bah, j'avoue que moi, j'étais un peu team Becky Hammon, dans le sens où, pour moi, trop petit pour être leader. Enfin, il y avait des limites. Et puis, je crois qu'il y avait aussi une nostalgie de genre, hey, tu vas pas réussir là où Iverson a raté, en fait, ou des trucs comme ça. Alors, il a pas du tout la même équipe autour. Non. J'aurais bien aimé qu'Iverson et cette équipe d'Enix, hein, ce serait une autre, voilà. Mais par contre, lui, dans son rôle, on ne peut pas lui demander plus. Je ne sais pas si
dans
c'est un vrai 1 et le reste de l'équipe, mais c'est en tout cas largement un 1A.
Oh, je, sais pas, je pense que c'est quand même
enfin, c'est un 1, hein. Et tu as deux towns, quoi. Et par contre, tu as une armée de 3. C'est là où l'Enix est forte. Tu as des roleplayers qui sont en fait quasi des troisième hommes, quoi. T'en
ouais, mais bon, c'est quand même le vrai 1, là, dans ce...
Si, tu as raison, oui,
non. Quand
oui,
Amen, parce que
oui, c'est pas un 1, un B, towns et lui, non.
Le nombre de matchs... Là, dans ces playoffs où les Knicks ouais. sont menés ou un peu dans la panade et il enchaîne 10 points de suite, etc.
Bah,
dans les Money Time, c'est exceptionnel.
Finales,
pendant toutes les finales, on a débattu un peu du MVP parce que Anunobi est extraordinaire, c'est 4 qui commence bah, le mieux, etc. Mais en fait, à la fin du match, 5 quand il met ses 40 points, tout le monde est bon, bah.
Et à chaque fois, voilà, sur un ou deux matchs, il règle le problème en disant le vrai captain, c'est moi, le vrai leader offensif.
Un match et toutes les fins de match, en vrai, aussi. Toutes les fins de match, c'est lui qui prend en main.
Quasi,
et qui...
ouais, quasi. Et des quatrièmes cartons et tout. Hein.
Incroyable.
Et puis ce jeu quand même assez... parce que c'est un mec de notre gabarit, voire plus petit. Donc c'est tout en appui, en angle, qu'on retrouve quand on fait des 1 contre 1 ou des choses comme ça. Parce qu'il ne va pas faire des...
Je ne la retrouve pas sur mes playgrounds.
Non, mais les... non. Pas non, nous, ça. À notre niveau. Mais c'est il y a un côté mec normal.
Ouais.
C'est ça que je voulais dire.
Ça fait trop plaisir.
Il y a un côté mec normal, alors avec un talent de ouf et qui a travaillé. Dylan Harper en 2, ouais.
Non, j'allais dire, je prends ton relais après les mecs d'Enix, mais on peut aller sur Dylan Harper, qui, dans le mini-débat Castle Harper, là, pendant la plupart de la saison, moi j'étais Castle et très sûr de moi, etc. Parce que j'adore, je trouve qu'il apporte quelque chose défensif et tout. Et là, tu vois, on entre dans les joueurs, c'est pareil avec Scottie Barnes, qui, moi, m'ont fait changer d'avis. Je savais qu'il était trop fort, hein, évidemment, Dylan Harper, et qu'il était merveilleux à avoir joué, etc. Je pensais pas que dès sa saison rookie, sur l'ensemble des playoffs, est-ce que c'est pas le deuxième meilleur spur? Moi, je pense que si, honnêtement. Il y a trop de moments où il a pris le relais, où
peut-être
il a été
bien. Devant Castle, quoi. En
ça
tout cas,
se débat, hein. C'est pas clair et net. Mais avec cette expérience, etc., je veux qu'il soit titulaire l'année prochaine. J'espère, je sais qu'on aime bien le relais à Ginobili.
J'ai changé d'avis d'ailleurs là-dessus. Je pense qu'il faut qu'il soit titulaire.
Ouais,
et Fox, il doit se démerder. Je sais pas comment il va se démerder, mais en fait, j'ai changé d'avis.
Il est trop fort,
trop risqué de dire à Dylan Harper, tu vas encore attendre. Ouais, on est dans un monde, une ère. C'est pas un étranger comme Ginobili, c'est pas un mec qui arrive à 25 ans NBA. Et déjà, Ginobili, en plus, on sait que c'était compliqué. Il n'y a plus Popovic pour le faire passer. Son père, c'est un champion NBA et tout. Ça va être compliqué de pas
puis
mettre.
Puis en finale NBA, il est encore extraordinaire. Ouais. Sa capacité de drive, elle est presque unique en fait dans la ligue. Là, ouais. Ses finitions près du panier. Bah, il m'a halluciné. Voilà, je savais qu'il serait fort, je savais qu'il serait trop beau à avoir joué. Je pensais pas qu'il serait dans la conversation des, je sais pas, 7-8 meilleurs joueurs de ses playoffs. Enfin, j'abuse peut-être, mais bon, peut-être pas. Hein. En tout cas, dans le top 10.
Je sais pas, mais.
Et qu'il est déjà, en tant que rookie, un mec qu'on aime suivre et qu'on a tellement hâte de suivre pendant 15 ans comme ça.
C'est ça. Alors attention, Robin, parce que moi je suis le premier à tomber dans ce truc, mais aussi à essayer d'être lucide. Il a le bonus joueur kiffant et beau avoir joué.
Ouais.
Donc en termes de niveau. Non, mais et comme Rudy Gobert, quand on parle de meilleur joueur, a toujours un malus, par exemple, par rapport à son impact réel sur un terrain.
Oui.
Ou même Giannis, tu vois, on parlait de Giannis. Moi je trouve que Giannis, il a un peu un malus parce qu'il est pas beau avoir joué. Kyrie, il a le plus gros des bonus, tu vois. Dylan Harper, pourquoi je dis ça? Parce que là aujourd'hui, et puis j'assume à côté peut-être un peu hipster, mais tu me mets tous les joueurs de NBA sur la table et tu peux en choisir un en mode chouchou des chouchous pour les Kings. Je sais pas si je prends pas Dylan Harper.
Ouais.
Je te jure.
Mais tu vois, je pense
si je veux pas que mon jeune machin. Je crois que pour. Et je pense que tu parles avec, je sais pas, Alex pour les Suns et tout, tu dis pique un mec, je pense que Dylan Harper vient très vite dans les conversations de tous les amoureux de NBA.
Il y a le côté très beau, c'est sûr. Mais tu vois, moi, je pensais pas qu'il serait aussi impactant en défense.
Non, mais
déjà.
Il est très fort. C'est juste qu'un mini
même
bonus.
Dans les trucs qui se voient pas, il est là.
Alors, c'est là où il est très fort, c'est qu'en plus, tu te dis, ouais, il y a des finitions, de l'insta et tout. Mais tout le travail. Ouais, les choses. Alors, elles sont pas invisibles puisqu'on les voit, mais les choses plus de l'ombre, les petits détails et tout. Et puis surtout, à son âge, il a déjà cette maturité, ce sang-froid et tout. Mais qu'est-ce que ça va donner Et puis il a déjà l'expérience d'une finale NBA maintenant. Qu'est-ce que ça va être dans 3-4 ans, quoi.
Je passe sur le poste 4 parce que pareil, c'est complètement mon choix. Toi, t'étais déjà complètement dans le bateau. Moi, c'est mon plus gros mea culpa. Bon, j'aimais bien. Ouais. Mais je pense que, pour être honnête, parce que si cette équipe des Raptors, elle était un peu dans un entre-deux et tout, c'est pas l'équipe que j'ai le plus regardée l'année dernière, ouais. Même si je l'ai regardée, mais pas assez. Et du coup, les playoffs m'ont mis une tarte visuelle de... Bah, en fait, c'est un des 3 meilleurs défenseurs de NBA. C'est un playmaker qui est trop fort, c'est physiquement
c'est
il est incroyable.
Pas été first team,
il est juste pas assez, il était juste pas assez forcément bien entouré pour pouvoir montrer à quel point il est fort. Mais oui, ce gars-là peut être un. En fait, c'est pour ça que j'aimais bien le sac majeur Toronto. Ça me dérange pas que ce soit le porteur de balle principal de ces Raptors. Enfin, faut qu'il ait une bonne deuxième lame.
Ouais.
Mais avec Kawhi à côté et tout, je pensais que c'était un très bon joueur qui pouvait devenir un très bon lieutenant. Après ces playoffs, je pense que ça peut être un très bon franchise player. Ouais. Il est trop fort, il m'a mis une claque et j'ai adoré le voir. Donc même si c'était qu'un tour, pour moi, il mérite complètement sa place dans ce 5.
Moi, j'ai évidemment accepté cette proposition de Robin de le mettre dans le 5. J'ai toujours adoré Scottie Barnes. La vision est compliquée parce que c'est un joueur assez unique.
Ouais.
En fait, il fait des choses qui normalement le même joueur n'est pas censé faire ça. Et donc, tu l'as dit, il y a quelque chose de Draymond Green dans défense, peut-être encore plus sur les ailiers. Mais c'est une polyvalence et des instincts. Draymond Green, pas de maintenant, hein. Draymond Green il y a 10 ans avec ça. Et en attaque, en fait, il est tout à fait capable d'assumer le rôle de porteur de balle, un peu point forward. Mais il le fait d'une façon, parce qu'il shoot assez peu, mais il attaque le cercle. Et il le fait, il est très concentré. En fait, il le fait un peu comme ferait presque un Boris Diaw ou un truc, un mec qui va pas du tout forcer.
Ouais, c'est plus fin en fait.
Mais oui, c'est
bizarre. Compare à Banchero, mais c'est beaucoup plus fin que Banchero dans la manière dont il attaque.
Mais il y a un côté, c'est très bizarre Scottie Barnes et c'est un joueur assez unique. C'est pour ça qu'il est fascinant. Et surtout, moi, je trouve qu'il a, il a quelque chose de même pour la NBA. Putain, c'est le plus costaud.
Ouais, je pense. Hein. D'ailleurs, ils le disent. Tu parlais des streams de Jalen Brown, il l'avait dit. Ou d'autres gars. C'est un mur, quoi, physiquement. C'est pour ça qu'avec Kawhi, qui a aussi cette réputation là.
Fait juste ça là. Et je pense que non, c'est quelque chose. Et
t'as pas envie de jouer les ailes des Raptors.
Et
hein.
Ça,
t'as
il commence à savoir l'utiliser juste tranquillement. Pas en bourrinant, juste tranquillement. Juste l'épaule au bon moment. Le mec va dire ah, je peux même pas te pousser. Et du coup, la passe, le petit dribble en plus. Quand le jeu a commencé dans cette série de playoffs, t'as raison à se ralentir pour lui. Et ça fait flipper.
C'est ça. Et le dernier de ce 5 majeur, Jaden McDaniels. Je sais pas si on va pouvoir en dire beaucoup plus que ce qu'on avait dit après le premier tour. Il est incroyable, il est trop fort. Pareil, de côté du terrain, je sais pas, c'est un top combien joueur NBA, c'est dur comme débat, mais il a accepté ce rôle et c'est le. Pour moi, c'est pas vraiment un role player, mais dans le style de role player, c'est le meilleur role player de NBA pour moi.
Un peu comme Anunoby, c'est un role player plus quoi.
Ouais, c'est... Non, mais
et je pense
trop,
que le débat va être réglé l'an prochain parce que là où je te rejoins sur les Wolves, c'est qu'il y a McDaniels qui va avoir de fait plus de.
Il va le prendre le poste 4, il n'y aura aucun problème.
Voilà, il va prendre le poste 4. Et je pense même qu'avec l'espace, enfin l'attention, le bas court, la méloante, quoi, autour de lui, il va. Lui et Dawson Mou peuvent être les grands gagnants de tout ça.
Ouais.
Tombe bien, c'est le joueur que t'aimes bien. Mais McDaniels, il y a un monde même où il remet la hiérarchie un peu. L'arrivée de Melo fait qu'on va devoir repenser. De la Melo. J'aime pas dire Melo pour la Melo, je trouve ça blasphème.
Je comprends.
L'arrivée de la Melo Wolves va remettre tout ça un peu en cause. Et en fait, ça va peut-être se rendre compte que c'est l'équipe de Hunt et McDaniels, mais dans un autre genre, un peu la paire. Vraiment, ça c'est intouchable. Et autour, t'as du Gobert, t'as la Melo qui complète. Et ça peut être une formule qui effectivement va aller très loin, Robin. Peut-être, peut-être.
Espérons. Et enfin, bah du coup, vous avez vu mes 6e homme à Ginobili, coach Mike Brown, c'est les Knicks. Ils ont mis des sweeps à
tout
le monde. Ils méritent d'être là.
Bravo.
Et oui, on va finir cette émission avec une note take un peu spéciale. Ça va être l'instant take de l'année prochaine. D'habitude, on fait semaine par semaine.
J'ai vu que t'avais mis ça dans le conducteur. Je me suis dit, ah, d'accord, Robin, il fait des take 2028. Quoi.
Bah, c'est ça. D'habitude, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais là, on se voit pas avant octobre, potentiellement. En tout cas, dans ce format de week pass.
La France aura-t-elle une étoile en plus sur le maillot, Robin? Je t'emmène déjà sur la take. Ah ouais, toi, moi, je te fais une take dans la take. Ouais, la France championne du monde.
Trop fort. Non, si tu crois pas maintenant, tu crois jamais quoi.
Bah là, on sort. Là, ils viennent. Là, on est. C'est la première équipe qualifiée.
Ouais.
Moi, j'ai une espèce d'hot take. Si je devais, mais j'ai peur en fait. C'est pas une hot take, c'est une peur. Comment je pourrais le formuler en espagnol? Ouais, bah tu vas. Je vais dire ma hot take pourrait être que ni la France ni l'Argentine gagnent la finale.
Ok. Votre Espagne Angleterre.
L'Espagne. Et tu sais que les Anglais, ils sont pas si bons, mais ils ont ce truc de. En fait, on va pas mourir. En fait, vous pouvez pas nous battre. On est imbattable.
Non, c'est
on n'est pas bon, mais on peut pas perdre.
Moi, avant le tournoi, j'avais dit l'Espagne, donc j'y crois. J'ai peur d'eux, attention. Mais on est juste la meilleure équipe du tournoi, donc t'es obligé.
Ne nous
d'y
portons
croire,
pas l'œil, etc. Et, par contre, le fait qu'il y ait un tour en plus aussi, ça change. Enfin, tu vois, ça change quand même pas mal de choses. Le fait qu'il y ait une élimination directe, c'est pas fini, il faut en gagner ça. Bon.
Mais donc oui. D'habitude, on peut se donner rendez-vous semaine prochaine pour vérifier notre take.
Donc, chez Robin, la France aura une troisième étoile sur le maillot.
Oui, mais c'était pas celle-là, évidemment.
Oui.
Non, j'en ai beaucoup parlé dans cette émission, donc je reste dans ma lancée. Les Minnesota Timberwolves feront mieux que cette saison, donc minimum finale de conf en battant soit les Spurs soit le Thunder, et encore ça peut aller plus haut. Donc voilà, les Minnesota Timberwolves feront encore
dans
mieux l'année
carré.
Prochaine.
Comme les Bleus en demi, quoi.
Dans le dernier carré, et encore je reste poli.
D'accord. Je vais être bref pour une fois. Les Celtics font mieux que cette saison. l'an prochain.
Ah, tu vois, on est un peu dans le même style. Ok. Voilà. Mieux en playoff ou régulière aussi
Régulière, on s'en fout.
Oui, ok.
Je prends un peu pareil, mais en playoff.
Parce que ça m'étonnerait qu'il fasse mieux en régulière, moi. Mais en playoff, je peux, oui.
C'est pour ça que je le tourne comme ça, parce qu'effectivement, en playoff, ils font mieux. Ils perdent pas au premier tour, allez.
Ok. Il faudra avoir un lest effort, mais ok, j'aime bien. C'est notre take. Ah bah, on aime bien. C'est la fin de cette émission estivale, évidemment. Elle a duré un peu, mais vous avez vu, on devait faire un grand brassage de free agency, ouais, de draft.
Râlez pas,
de
vous avez évité une demi-heure de digression sur la Coupe du Monde.
C'est vrai, ouais, qu'on avait prévu un peu ça. Et on...
ouais, on s'est rendu compte que c'était trop.
Voilà, on la fera en vocal si certains sont intéressés.
On les envoie à Rich Paul. Là, on lui fait des mémos, on lui propose des.
Bah, le 5 meilleur des bleus que tu avais proposé. Donc merci d'avoir été avec nous toute cette première saison. Merci d'avoir été fidèle. On sentait que les chiffres augmentaient petit à petit. On espère que vous serez encore plus l'année prochaine. Comme je l'ai dit en début d'émission, n'hésitez pas si vous avez des séquences que vous aimez, si vous voulez le retour à la méthode des Français, si vous aimez bien ce petit 5 majeur.
Si vous pensez des 5 majeurs. Les trophées, est-ce qu'on pousse plus loin le curseur? Est-ce que c'est trop pour vous, second degré et tout?
Les digressions aussi, est-ce que vous aimez quand on part sur le cinéma, sur les jeux vidéo, sur le foot, sur le tennis, etc.
Ouais, bah sachez qu'on réfléchit un peu à des cases qui pourraient accueillir des digressions. On réfléchit, c'est l'été, ça permet aussi de faire tout ça. Mais le week pass, moi je tenais, je vais même le faire face caméra, Robin. Je tenais à vraiment te féliciter, te remercier et te féliciter. Pour mais pour et puis la communauté et tout. Pour c'était pas évident comme ça de prendre en charge. L'animation, la création, les conducteurs d'un coup sur le rythme de travail, et puis le fait de qu'on collabore ensemble, le fait de me gérer aussi, parce que sinon l'émission elle dure, c'est pas forcément qu'elle dure 3 heures, mais elles peuvent partir dans tous les sens.
Bah, c'est mignon,
même
merci
si, même si parfois, et c'est bien, c'est là où on se complète bien. C'est pas forcément toi le sérieux et moi le. Il y a des jours où ça peut, c'est ça qui est pas mal.
Bah, espérons, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, merci beaucoup.
Y a une belle osmose qui s'est créée. Moi, je suis très content. Je trouve que, j'espère que vous aussi, mais en voyant les émissions, on voit quelque chose se créer, se mettre en place. Oui. On en a déjà fait, ça doit faire une vingtaine, 15-20, parce qu'on les a plus numérotés depuis qu'on est en fin de saison. J'ai hâte vraiment de pousser ça encore plus loin, de pouvoir être à la fois encore plus créatif et aussi exigeant dans l'émission, etc. Et tout. Et je suis vraiment content de pouvoir continuer ça avec toi.
Merci à toi, merci pour l'opportunité. C'est aussi plus facile de le faire à côté de quelqu'un d'aussi créatif, on l'a dit, mais qui m'a bien mis à l'aise. Donc oui, on est conscient qu'il y a plein de choses à améliorer, et notamment, et moi évidemment, c'est les débuts, mais on est ravis en tout cas de le faire. C'est un formidable exercice.
Je vous invite à avoir la même honnêteté, honnêtement, la même honnêteté en commentaire, parce que là, du coup, on n'a pas...
C'est le moment parfait.
On va avoir un peu de temps, on va reprendre vos feedbacks. Un truc aussi qu'on voulait introduire d'ailleurs, mais peut-être l'an prochain, si on peut dévoiler, il y a plein de petites idées, mais c'est justement encore plus... Peut-être quand on aura le rythme d'eau de rebondir sur un de vos commentaires ou d'aller chercher de créer
plus
voilà.
Faire avec la commu,
donc réfléchissez aussi à dans ce sens-là. On va pas passer le week pass en live, je ne pense pas. Donc non. C'est pas la peine de nous demander, c'est trop compliqué techniquement. Mais d'aller piocher dans vos commentaires ou de pouvoir en lire certains, répondre. Réfléchissez aussi vous. Si vous voulez nous envoyer des dessins pour que ce soit l'image de la semaine, parce qu'au bout d'un moment, moi, je vais me fatiguer à faire des maisons et des trucs sur des ordres. Non, soyez créatifs aussi et honnêtes en commentaire.
Et voilà, et merci enfin à vous pour l'accueil, pour la bienveillance, pour déjà avoir donné des conseils, pour avoir remarqué qu'on était plus à l'aise et d'avoir accroché avec nous. Et on espère vous retrouver le plus possible, le plus nombreux et le plus satisfait la saison prochaine.
Passez un bel été.
Gros bisous, profitez à fond, protégez-vous avec la chaleur et que de l'amour pour cet été. Gros bisous.
Bye.